Israel.
Albo mu nie starczy jeszcze.
Bon, tu lances le truc quand même.
Bah, Bruno va lancer, t'as parlé en premier.
D'accord, ok.
Et moi, tu me lances.
Alors, moi, j'avais fait mon temps. On va quand même laisser beaucoup de temps ensuite aux questions à répondre.
Absolument.
Commencer dans 2 minutes, 1 minute même. On donne une prime à ceux qui acceptent de se mettre au premier rang. Il regarde la terre par exemple, la punition.
Je vais faire 2-3 minutes de conclusion CEC pour remettre un peu le contexte. Mmh.
Oui, je voulais vous prévenir. En fait, il y a quelqu'un qui souhaite filmer les interventions et le débat. Par contre, s'il y a quelqu'un qui souhaite pas être filmé, n'hésitez pas à
le dire.
À le dire.
Qui se met sous la chaise.
Bon, allez. Bon, ben bonsoir. Donc, c'est une soirée consacrée à l'implication de l'État français, du moins de certaines personnes haut placées dans le génocide des Tutsis rwandais en 94. Donc, le génocide des Tutsis rwandais. Génocide, donc destruction délibérée des Tutsis du Rwanda. Donc jusqu'au dernier, des vieillards, les hommes, les femmes, les nourrissons, les enfants. Tout ça, ça a été fait en 100 jours. Il y a eu 1 million de morts, donc en un peu plus de 3 mois. Donc c'est un génocide qui se distingue par son ampleur, parce qu'il y a eu 90% des Tutsis rwandais qui ont été anéantis, et sa rapidité également, parce que 3 mois, c'est vrai que c'est absolument effarant. Au niveau de la planification, je rappelle quelques faits. Bon, tout d'abord, il y a eu une élimination de l'opposition Hutu. Donc des gens qui s'opposaient à la dictature. Ensuite, donc tout de suite après les Tutsis. Alors, je rappelle simplement qu'il y avait la carte d'identité qui permettait de déterminer si la personne était Hutu ou Tutsi ou toi éventuellement. Bon, il y a eu des barrages simultanés dans tout le pays. Donc au niveau de la circulation, c'était très difficile, fermeture des frontières, puis des véritables battues qui se sont organisées pour éliminer les Tutsis. Il y a eu des achats de machettes, 500 000 environ à la fin de l'année 93. Les radios aussi, puisque la radio a été un vecteur de l'idéologie et un vecteur du génocide lui-même. Les piles aussi, les radios et les piles. En 93, une organisation décentralisée, à la fois pyramidale et décentralisée, c'est-à-dire que le génocide s'est quasiment mis en place dans tout le pays, dans toutes les préfectures et tous les villages. Propagation d'une idéologie ethniste, donc une idéologie du bouc émissaire, par rapport aussi à une dictature qui était assez finissante. Des prémices depuis 1959, des massacres assez récurrents, donc depuis ce qu'on a appelé la révolution Hutu, un régime raciste avec des quotas qui font penser à l'apartheid. Des alarmes, bon, il y a eu des ONG qui ont poussé l'alarme, dont le président de survie de l'époque, qui s'appelait Jean Carbonard, qui a en plein JT de France 2, donc un an avant, a alerté sur les risques imminents de génocide. Tout ça, c'était aussi dans un contexte franco-africain, comme qui dirait France-africain, comme disait Verschave, donc néocolonialisme à la française, c'est-à-dire soutien aux dictateurs dans une petite vingtaine de pays. La France est également donc principal bailleur de fonds de ces pays, et puis un soutien diplomatique sans faille, notamment à l'ONU, etc. Au niveau des complicités militaires, les travaux. Alors là, je vais simplement énumérer quelques éléments de la conclusion du rapport de la commission d'enquête citoyenne, l'horreur qui nous prend en visage. Une commission qui s'est tenue donc il y a 2 ans. Et puis donc je vais énumérer simplement quelques éléments de conclusion, et puis après je vais laisser la parole à nos intervenants. Au niveau des complicités, enfin, ou de l'implication militaire française, il y a eu ce qu'on appelle les doctrines de la guerre révolutionnaire, c'est-à-dire bon, alors ça s'appelait guerre totale ou guerre anti-subversive, créée à la suite de la défaite en Indochine et testée plus ou moins. Testé pendant la guerre d'Algérie. Et donc cette organisation, cette doctrine qui s'est mise en place après dans beaucoup de pays, qui a été enseignée par donc les militaires français Trinquier, Lachauroy, qui étaient les idéologues. Alors tout ça, c'était caractérisé par des hiérarchies parallèles, des milices d'autodéfense, de la manipulation de l'opinion. Renforcement de réflexes identitaires, création d'un ennemi intérieur, stigmatisation, guerre psychologique, terreur. Donc tout ça faisait un contrôle des populations, donc à la fois donc politique et militaire, avec aussi un quadrillage parfait du sommet jusqu'à la base, jusqu'au simple citoyen. Le colonel Laugier, un colonel belge qui a un peu construit le nouvel état rwandais au moment de l'indépendance, a suivi les cours de ces doctrines de guerre révolutionnaire. Et puis en 90, quand il y a une attaque du FPR, l'armée française prend pied véritablement au Rwanda, et entre 91 et 93, donc on a l'armée française qui forme différentes composantes de l'armée rwandaise, que ce soit l'élite jusque même apparemment aux encadreurs de milices, enfin on pourra préciser ça peut-être après. Pendant donc ces 2-3 ans, il y a un décuplement des forces rwandaises, hein, qui étaient 5000 au début de 90, qui sont pratiquement 50 000 quelques années plus tard. C'est une guerre secrète aussi, hein, parce que les citoyens n'étaient quasiment pas informés de cette guerre, en fait, guerre secrète, donc sauvetage du régime dictatorial deux fois, l'attaque du FPR repoussée, et puis aussi donc notamment la participation au barrage de tri Hutu-Tutsi. Donc il y a maintenant de nombreux témoignages qui attestent que des Français participaient donc au contrôle des pièces d'identité, et selon la personne était Hutu ou Tutsi, il y avait soit pouvait être massacré par des milices si on était Tutsi, et la personne pouvait passer sa route si elle était Hutu. En 94, livraison d'armes, Juppé, fin mai 94, dit donc on a livré des armes jusque fin mai 94, alors que le génocide était terminé aux trois quarts, ça c'est MSF qui le dit. Toujours pendant le génocide, donc Philippe Johan, conseiller des GSE de Michel Roussin, alors ministre de la Coopération, qui a dit à Gérard Prunier, donc il y a un historien, on livre des armes aux génocidaires, au gouvernement rwandais, mais... si vous le dites, je le démentirai. Consul de France à Goma, le 25 et 27 mai qui avoue avoir vu donc les livraisons d'armes. Ça, c'est Human Rights Watch dans un rapport qui l'affirme. Fin juin à Goma, donc pendant l'opération turquoise, donc Goma c'est la frontière zaïro-rwandaise, donc c'est au Zaïre, mais c'est à 3-4 kilomètres du Rwanda, donc c'est contrôlé par les forces françaises de turquoise. Donc des livraisons d'armes selon Amnesty aussi et Human Rights Watch encore. Que d'autres encore, une opération basée qui s'appelle Insecticide. Donc, sachant que les Tutsis étaient appelés par les génocidaires des cafards, ça veut tout dire. C'est une opération donc dirigée par Paul Baril, et ça c'est Alison Desforges dans son livre Aucun témoin ne doit survivre qui le dit, et aussi Patrick de Saint-Exupéry, donc d'un autre canal. Pendant Turquoise, donc une opération qui était censée être totalement humanitaire, sous contrôle de l'ONU, il y a eu aucune arrestation de génocidaires, alors qu'en fait ils s'étaient réfugiés tous à l'endroit où les forces turquoises étaient, et donc ça a permis aussi leur exfiltration vers le Zaïre, donc évacuation, et puis aussi donc réorganisation en fait de ces forces génocidaires qui étaient en déroute. Sinon pour Turquoise, on a actuellement donc des plaintes qui ont été déposées contre X contre des militaires français pour complicité de génocide. Il y a eu deux plaintes qui ont été déclarées recevables fin décembre de cette année dernière. Donc là c'est la justice qui suit son cours. J'ai aussi donc relevé des complicités diplomatiques. Sachant que le gouvernement intérimaire rwandais, donc le gouvernement génocidaire, vers le 7 avril, se serait formé directement à l'ambassade de France sous la houlette de l'ambassadeur Marlot. Reconnaissance du GIR, donc de ce gouvernement, par la France, ça joue beaucoup. Accueil à l'Élysée en plein génocide de responsables de ce gouvernement. La France et le Rwanda au niveau du Conseil de sécurité, malheureusement le hasard a fait que le Rwanda était membre du Conseil de sécurité à l'époque, donc il y a toujours une dizaine de pays qui sont qui s'ajoutent au Conseil de sécurité permanent, et donc la France et le Rwanda ont influé vachement au niveau de leur vision donc les autres membres du Conseil de sécurité en disant caractériser les événements comme étant plutôt inconfirmés. Au niveau des complicités financières, la Banque nationale du Rwanda, donc après la déroute du gouvernement génocidaire, donc ils se replient donc au Zaïre et ils prennent les coffres de la Banque nationale du Rwanda, et donc un mois après la chute de ce gouvernement et un mois après donc la fin du génocide, on a des transactions, alors je sais pas si c'est des transactions, je parle sous votre contrôle, des transactions ou de plusieurs dizaines de millions de francs, donc validées par la BNP et la Banque de France. Donc voilà, c'est à peu près, je résume, hein, mais c'est à peu près le tableau assez sordide qu'on peut faire au niveau des conclusions donc de cette commission d'enquête. Je vais passer donc la parole maintenant à Jean-François Dupaquier, qui est écrivain, journaliste. Vous avez écrit La justice internationale face au drame rwandais, voilà. Et donc je donnerai aussi la parole à Mediba, qui est éditeur aux Arènes, qui a écrit Rwanda, un génocide français, qui a édité le livre de Patrick de Saint-Exupéry, entre autres, voilà. Donc, voilà.
Merci. Bien, chaque année, nous revoyons pour parler de cette espèce d'épée là, qui est au-dessus de l'État français pour sa responsabilité dans le génocide au Rwanda. L'État français qui a eu d'autres responsabilités dans d'autres génocides et qui a eu beaucoup de mal à assumer, ou dans d'autres guerres plus ou moins secrètes. Et nous avançons. Alors, dire nous avançons, c'est peut-être présomptueux quand on voit la littérature nauséabonde parue ces derniers mois. Vous avez tous évidemment compris que je veux parler notamment du livre de Pierre Péan, mais pas seulement. Où le racisme de bas étage le plus vulgaire trouve encore un auditoire. parce qu'il s'appuie sur les schémas les plus habituels d'un certain gros bon sens. Les Noirs sont des sauvages, ils ne sont pas capables de construire l'architecture d'un génocide. Et c'est ce qui transparaît avec un tout petit peu plus de talent, parce que Pierre Péan est un homme qui, par certains côtés, a du talent. Mais grosso modo, ça revient à ça. Alors, c'est vrai que c'est une thèse qui a ses apôtres, c'est turiféraire, comme par exemple Hubert Védrine, dans Le Figaro de la semaine dernière, qui nous dit encore, il a un certain culot, que l'enquête de Pierre Péan n'a pas été réfutée. Alors, bon, les bras en tombent quand on voit des choses pareilles, parce que l'enquête de Pierre Péan, elle n'a peut-être pas besoin d'être réfutée, elle était déjà pulvérisée en plein vol avant même de paraître, car l'existence d'une conspiration du génocide est une évidence. C'est une évidence dans tous les pays du monde. C'est une évidence en Allemagne, c'est une évidence aux États-Unis, en Angleterre, où d'excellents livres sont parus, malheureusement en anglais, et qui n'ont pas trouvé d'éditeur en France, c'est très dommage. Il n'y a qu'en France que on a tellement de mal à faire passer des vérités élémentaires. La vérité la plus simple étant que le génocide de 1994 est le résultat d'une construction d'État. Vous savez qu'un génocide, c'est un crime d'État. Il faut l'appareil d'État pour le réaliser, pour le préparer. Et que ce crime d'État, on l'a documenté depuis 1990. Au Rwanda, depuis 1959, date de la révolution sociale qui a porté au pouvoir des Hutus. On va essayer d'éviter de généraliser, de dire les Tutsis ceci, les Hutus cela, enfin des Hutus, alliés à la fois à l'église catholique et aux colonisateurs belges sur le départ. À chaque crise politique et sociale, on a massacré les Tutsis. On en a massacré en 59, on en a massacré en 61, on en a massacré en 63, on en a massacré en 73, et c'est devenu une sorte de méthode pour un régime, surtout quand il s'affaiblit, pour consolider son emprise sur les masses, en agitant le spectre, évidemment, du Tutsi hypocrite, criminel, etc., avec des images d'ailleurs qu'on retrouverait très facilement dans toute la littérature antisémite de la fin du 19e siècle, notamment d'Edouard Drumont, qui disait sur les Juifs à peu près ce qu'on dit sur les Tutsis. Et dans le plus célèbre livre d'Edouard Drumont, que vous n'avez sûrement pas lu, qui s'appelle La France juive, qu'on a du mal à se procurer parce qu'on les a tous brûlés pratiquement en 1944-1945, eh bien, on trouve des caricatures de juifs qui ressemblent étonnamment aux caricatures des Tutsis, parce qu'on les décrit déjà comme des cafards. Donc, une caricature animalière qui est très caractéristique. Et c'est presque un miracle que le régime laïque et républicain français ait résisté à la poussée antisémite et à la poussée des ligues à la fin du XIXe siècle. Mais, quand on lit aussi, malheureusement, Hitler, on s'aperçoit que Drumont, il a fait des petits. Et il en a fait bien au-delà, puisque, au Rwanda, on sait que ceux qui ont préparé le génocide ont lu toute la philosophie extrémiste, raciste et antisémite, et ont transposé les méthodes dans ce que Jean-Pierre Chrétien appelait un nazisme tropical. Alors je sais que là aussi on se trouve en face d'une contestation constante de ces termes, de l'idée qu'au Rwanda on était capable d'être aussi bon que les nazis, si on peut dire comme ça, ou d'être aussi mauvais que les nazis. Dans un prochain livre à paraître sur le tribunal d'Arusha, on conteste encore cette théorie. Il n'empêche que on voit comment ça se passe réellement, car dès 1990, c'est-à-dire quelques jours après l'attaque du FPR sur le Rwanda, on a mis des gens dans les stades, et ça se serait terminé par l'extermination de ces personnes s'il n'y avait pas eu au sein de l'armée rwandaise des divisions très importantes, et notamment au sein de la gendarmerie. J'aurai sans doute l'occasion de le redire au moment tout à l'heure du débat, parce qu'on ne va pas vous asséner un long discours, mais il ne faut jamais se représenter une armée comme un corps soudé, où tout le monde est toujours d'accord. Ça n'est pas vrai l'armée française. Il y a dans l'armée française des gens qui ont été choqués, révoltés de ce qui a été fait au Rwanda sous leurs yeux, et avec leur participation involontaire parfois. Mais dans l'armée rwandaise également, tout le monde n'était pas sur une ligne extrémiste et une ligne d'extermination. Et dès 1990, parmi les gendarmes rwandais, il s'en est trouvé suffisamment de haut gradé pour empêcher qu'on extermine les Tutsis qui étaient dans les stades. Et on peut dater de cette époque le début de la conspiration du génocide, conspiration, nous avons également la preuve qu'elle était organisée au plus haut niveau et que c'est le président Habyarimana lui-même, par exemple, qui en 1990 avait donné l'ordre d'exterminer tous les Tutsis qui se trouvaient dans le stade de Nyamirambo à Kigali et ceux qui étaient dans d'autres villes, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y avait aussi d'autres stades remplis de Tutsis à cette époque-là pour à la fois se débarrasser de ces gens, se piller évidemment leurs biens et surtout terroriser la minorité Tutsi au Rwanda pour qu'elle évite d'aider le FPR, parce qu'il y a toujours l'idée d'une cinquième colonne au Rwanda, puisqu'on a une lecture complètement ethniste de la vie politique, surtout quand ça arrange bien le pouvoir, et de se dire que bah, si on tue tous les Tutsis au Rwanda, évidemment le FPR ne peut pas gagner, parce qu'il ne gagne que par la traîtrise. La traîtrise étant un des traits constitutifs de la race Tutsi, comme chacun l'aura compris. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de cette démonstration de la conspiration du génocide, parce qu'on y passerait des heures. On a énormément de documents. Et pourquoi est-ce qu'on a énormément de documents? Parce que le Rwanda était un pays extrêmement bureaucratisé. Une excellente administration au Rwanda, au Burundi d'ailleurs aussi, mais bon, ce sera un autre débat un jour. Et donc, une administration qui laisse beaucoup de pièces, beaucoup d'écrits. Et bien qu'on ait beaucoup détruit juste après le génocide, quand les gens ont pris les maisons, par exemple, qui étaient disponibles, puisqu'on avait ravagé les maisons des Tutsis, donc les Tutsis ont parfois pris des maisons de Hutus, on a trouvé beaucoup de documents qu'on a brûlés, parce qu'évidemment, ça ressemblait à des actes de propriété, de toute façon, mais il en est resté énormément. Il y a énormément de documents au tribunal pénal international, il y a énormément de documents dans des collections privées, moi je peux en parler en connaissance de cause, parce que j'ai moi-même fait des enquêtes au Rwanda, et j'ai trouvé des gisements de documents que personne n'avait trouvé, parce qu'on en trouve tout le temps, et aujourd'hui on en trouvera encore. Malgré l'humidité, malgré le fait qu'on a besoin de brûler des papiers, etc., il reste énormément de documents, il reste par exemple tous les dossiers administratifs, car au Rwanda, quand on était fonctionnaire, on avait un énorme dossier administratif. Le dossier de Naïmana, il mesure au moins 7 ou 8 cm d'épaisseur, il fait au moins 150 pages, et il pèse plus d'un kilo. Et ils sont tous pareils. Moi, j'ai consulté, par exemple, aux archives de l'Office rwandais d'information, tous les dossiers de tous les journalistes extrémistes, je les ai demandés, on me les a apportés, j'avais 60 dossiers à peu près sur le bureau, je les ai tous consultés, ça m'a pris deux jours. Et tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment énormément de documents et que contester l'idée que ce génocide a été organisé méticuleusement depuis des années, c'est tellement grotesque qu'on ne va pas y passer plus de temps. Le deuxième schéma très très important pour les révisionnistes, pour tous ceux qui veulent contester l'idée que la France aura pu faire du mal, puisqu'il n'y a pas eu de génocide, parce qu'il faut toujours voir que ces gens-là passent leur temps à contester l'existence même du génocide, et que M. Védrine, dans le même interview du Figaro, dont on vous a, je crois, distribué heureusement une ressuscité tout à l'heure, le dit que, alors on lui pose la question, est-ce qu'il y a eu un double génocide? Il répond, est-ce une question piège? Parce que vraiment, c'est très très désagréable pour eux de prononcer même le mot de génocide, ou alors on fait comme de Villepin, on dit qu'il y a eu un double génocide. Alors c'est tellement commode, comme Mitterrand, comme de Villepin, comme Védrine, au moins sur ce plan, la classe politique française, elle est vraiment d'accord, il n'y a pas eu de génocide au Rwanda, bon, sauf quelques brillantes exceptions dans nos hommes et femmes politiques, mais globalement, on peut dire qu'à droite et à gauche, il y a malheureusement une tonalité généralement unitaire. C'est pas comme sur le contrat premier embauche, là, ils sont tous totalement d'accord, la France n'a pas pu mal faire au Rwanda. Et alors, le deuxième volet de cette contestation, c'est l'attentat contre l'avion d'Habyarimana. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a pas eu de conspiration du génocide, c'est ce maudit attentat qui a tout déclenché, qui a provoqué une colère populaire spontanée. Ça a tellement révolté les habitants que tout d'un coup, ils ont découvert des machettes qui étaient quelque part, et des kalachnikovs en grande abondance, et toutes sortes d'autres armes, parce qu'on avait importé toutes autres armes. Je fais une petite parenthèse pour dire que dans la conspiration du génocide, il y a un aspect qui est tout à fait saisissant. Le Rwanda était un pays qui était sous tutelle de la Banque mondiale et du FMI depuis 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire un pays sous tutelle? Ça veut dire qu'il y a des experts qui sont au ministère des Finances, qui sont aux douanes, qui visent la totalité des documents d'importation et d'exportation pour s'assurer que l'élève fait des progrès. Et tous les documents ont été visés par des experts internationaux, et là-dessus on a un rapport qui est extraordinaire, qui est un rapport de M. Pierre Galland, qui est un spécialiste des circuits monétaires internationaux, qui a retrouvé tous ces documents au Rwanda, parce que ceux-là aussi n'ont pas disparu, ils étaient dans les banques. Par exemple, quand M. Félicien Kabuga faisait rentrer au Rwanda des containers, les grands containers, vous voyez ceux qui font, comme on dit, 40 pieds, il y avait dedans 500 000 machettes. Et nos amis, nos experts du FMI et de la Banque mondiale validaient tous ces documents et disaient « Ok, ça rentre ». Ils n'avaient pas réfléchi qu'on n'avait pas besoin d'autant de machettes et ils ne se sont jamais demandé, apparemment, enfin c'est ce qu'ils ont prétendu, pourquoi on rentrait tout d'un coup autant de machettes au Rwanda. Ça fait partie d'une conspiration qui a échappé à M. Védrine, qui a échappé à M. de Villepin et qui a échappé à tant d'autres. Je ne vais pas m'attarder longuement sur l'attentat contre l'avion parce que visiblement cet attentat fait partie d'une stratégie. Il s'inscrit dans la compétition politique au Rwanda. Il y a une façon d'analyser un attentat. C'est une façon purement et simplement d'enquête. Une autre façon, qui est une façon, disons, le réflexe policier média, chercher à qui le crime profite. Si on cherche à qui le crime profite, ce crime est signé. Car dans la demi-heure qui suit l'attentat, le colonel Théoneste Bagosora, qui est le grand organisateur du génocide derrière, dans l'ombre d'Abiarimana, cherche à prendre le pouvoir, se rend à l'ambassade de France, demande à l'ambassade de France qu'on lui reconnaisse une sorte de coup d'État qui lui permette de saisir tous les rênes du pouvoir. Personne n'a même l'idée de se rappeler qu'il y a un Premier ministre, sauf lui visiblement, puisqu'il l'a fait assassiner dans les heures qui suivent, que si le Premier ministre n'est pas là, eh bien c'est le président de la Cour suprême qui devient chef de l'État, on le fait assassiner aussi, donc Bagosora fait le vide d'abord, dans toute la crème de la classe politique, qui est composé, en l'occurrence, de Hutus qu'on appelle démocrates, parce que le mot modéré n'est pas très élégant, on va dire de Hutus démocrates. Ensuite, on passe évidemment au massacre des Tutsis. Alors ça, c'est l'aspect chercher à qui le crime profite. L'autre aspect est un aspect purement et simplement d'investigation. Il y a un attentat, il y a des gens qui ont commis cet attentat. On sait que quand on tue un chef d'État, il y a une part de mystère qui tient à la difficulté de tuer le chef de l'État. L'assassinat de John Kennedy, on sait que c'est un mystère qui n'est toujours pas totalement levé et on ne comprend pas comment il peut n'être pas levé puisque c'est forcément autre chose qu'un simple tueur individuel qui a réussi par chance avec un vieux fusil son coup. Dans l'affaire du Rwanda, on sait qu'on a utilisé des missiles, on sait qu'il y avait un groupe d'hommes, on sait que ce groupe d'hommes se tenait sur une colline qu'on appelle Masaka, qui est juste à côté du camp de la garde présidentielle, qui est un endroit extrêmement contrôlé, et on a des témoins. Alors on a des témoins qui nous disent que c'est le FBR, et notamment le lieutenant Abdul Rouzibiza. Il a été exfiltré d'Ouganda par la DGSE, il ne le cache pas d'ailleurs, et c'est la DGSE qui l'a amené chez le juge Bruguière. Et puis après, comme c'était un petit peu trop, ça faisait un peu trop, disons, le garder en France, on lui a proposé d'aller se cacher en Suède. Et Rouzibiza a publié un livre, qui d'ailleurs, par certains côtés intéressant, et qui explique comment lui et ses copains ont abattu l'avion d'Abiarimana. Quand on enquête au Rwanda, on ne dit pas que forcément ce qu'il dit est frappé d'absurdité. Après tout, il était plus ou moins un officier du FPR. Apparemment, il n'avait pas l'autorité, ni les postes de commandement, ni l'expérience des missiles qu'il prétend, mais enfin, ça c'est presque un détail. Simplement, il faut savoir que au Rwanda, les enjeux du pouvoir sont tels, et sont restés si complexes souvent, qu'on peut faire dire aussi à des gens un peu n'importe quoi. Donc, on a de ce côté-là quelqu'un qui dit qu'il a participé à ce network commando qui a battu l'avion, mais ceci, ce ne sont que des paroles verbales. Ce ne sont que des paroles verbales, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on cherche, nous, pour savoir qui a commis cet attentat, autre que les paroles verbales d'un Rouzibiza et autre que le triomphalisme d'un Bagosora, qui, lui, semble plutôt être aussi à l'origine de cet attentat. On aimerait savoir si l'armée rwandaise possédait une batterie de 120 missiles, SAM-7 ou SAM-16. On aimerait savoir si l'armée rwandaise avait commandé et quand cette batterie de missiles. On aimerait savoir si quelqu'un dans l'armée rwandaise a été le premier à écrire, par exemple, au chef d'état-major ou au colonel Bagosora en disant qu'il fallait absolument commander ces missiles. On aimerait savoir si dans les carnets du major Bagosora, du colonel Bagosora, qui ont été saisis, figure une mention laissant entendre qu'on aurait pu transférer l'argent nécessaire pour l'achat de cette batterie de missiles. On aimerait savoir si dans la recherche de l'ennemi intérieur, qui était un des grands thèmes de l'armée rwandaise pour exterminer les Tutsis, il n'y a pas comme ça une espèce de, non pas de network commando, mais de commando masqué aussi, on pourrait dire une espèce de cabinet noir, pour reprendre certaines terminologies, qui préparait l'attentat contre l'avion. On aimerait savoir si les numéros des deux enveloppes de missiles qui ont été retrouvées correspondent vraiment à des missiles, et si ces numéros correspondent, le cas échéant, à une commande de 120 missiles passés par l'armée rwandaise. Si c'était le cas, on aimerait savoir pourquoi l'armée française, interrogée par la commission, par la mission d'information parlementaire française, n'a jamais su qu'il y avait 120 missiles entre les mains des soldats rwandais qui fréquentaient tous les jours. Parce que ça ne se cache pas dans une poche, un missile. C'est quand même une certaine technologie. On aimerait savoir enfin s'il existe un document qui montre que ces 120 missiles commandés à X ou Y, on lance par hasard l'idée qu'ils auraient pu être commandés à des, par exemple, à des Égyptiens ou à des Russes, si ces missiles, quand ils ont été livrés, ont donné lieu à un bordereau de livraison signé par qui. Voilà des vraies questions qu'on doit encore se poser sur l'attentat contre l'avion, parce que, encore une fois, les paroles verbales, c'est intéressant, ça permet de nourrir un débat qui est tout à fait franco-français sur cette affaire. Il n'y a qu'en France, il faut quand même s'en rendre compte, qu'il y a encore ce débat ringard auquel veulent nous entraîner M. Védrine, ses acolytes Péan et compagnie, et M. Jean-Christophe Mitterrand, qui est un copain d'enfance presque de Péan. On aimerait surtout avoir des documents. On aimerait avoir un vrai juge d'instruction, et non pas quelqu'un comme M. Bruguière, parce qu'on ne peut pas l'appeler un vrai juge d'instruction, et qui fasse vraiment son enquête, à charge et à décharge, comme on dit à outreau, pour voir si tout n'est pas différent de ce qu'il nous prétend depuis des années par des espèces d'indiscrétions calculées auprès d'autres amis à lui qui partagent ses thèses révisionnistes. Voilà toutes sortes de questions qu'on doit encore se poser pour se dire que, c'est intéressant de lire Ouzibiza, c'est plus intéressant, moi personnellement je trouve, que de lire Péan, parce qu'au moins lui c'est un Rwandais qui parle, s'y connaît un peu. Pas comme M. Péan qui n'a jamais mis les pieds au Rwanda, sauf il y a 25 ans pour aller voir sa fille qui était coopérante au Burundi. Donc ce serait intéressant de voir des gens qui connaissent vraiment leur sujet. Et pour ça, qui nous apportent des documents, parce que les documents, ça ne manque pas. Et si M. Bruguière n'en a pas trouvé, c'est qu'il n'en a pas cherché. Je vous remercie.
Je vais revenir quant à moi sur certains points abordés par Jean-François. Donc vous savez sans doute peut-être qu'au début de l'année 2005, 6 plaintes ont été déposées devant le tribunal aux armées de Paris, seul compétent pour juger des militaires français à raison de délits ou crimes commis à l'étranger dans l'exercice de leurs fonctions, et que dans l'année qui a suivi, on a vu, comme vient de le rappeler Jean-François, un nombre assez impressionnant sur une seule année d'ouvrages ouvertement négationnistes. Qu'il s'agisse des ouvrages parus aux éditions du Boiris, de l'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU, Jacques-Roger Bobo, qu'il s'agisse d'un ouvrage collectif sur l'attentat, qu'il s'agisse de la version officielle de l'armée française donnée par M. Bernard Lugan, lequel Bernard Lugan, 10 ans plus tôt, dans sa revue L'Afrique réelle, avait, indépendamment de son racisme assumé, une vision du génocide et du rôle qui avait joué François Mitterrand et la France en particulier, qui était aux antipodes de celle qu'il affiche aujourd'hui, ce qui pour un historien, un tête à queue de cette manière, est toujours un peu préoccupant. On a vu bien sûr le livre de Pierre Péan, on a vu également le livre de Jacques Hogard, Les larmes de l'honneur. Alors, bien évidemment, personne ne peut affirmer que ceci expliquerait cela, mais le fait est que des plaintes déposées devant un tribunal aux armées visant à raison de la complicité de génocide contre X, donc non pas contre des personnes nommées pour l'instant, des militaires français, eh bien c'est effectivement une porte qui s'est ouverte, qui place dans une toute autre optique les responsabilités jusque-là dénoncées de manière militante ou éditoriale depuis le génocide de 1994. La porte est ouverte notamment au fait qu'il faut se rappeler que les militaires obéissent à des ordres et que ces ordres nous amènent à des prises de décisions politiques, et que bien évidemment, si Hubert Védrine est aussi actif pour protéger l'héritage de la politique française et celle en particulier de François Mitterrand, c'est parce que les répercussions qui peuvent découler de ces plaintes sont bien évidemment extrêmement préoccupantes pour l'appareil d'État ou pour certaines personnes en son sein. Alors, moi, je voudrais simplement, parce que il me semble, pour un public français, que la chose est difficilement contournable, revenir sur quelques évidences, non pas concernant le fond de l'affaire sur lequel Jean-François vous a donné un résumé donc concernant l'attentat, mais simplement contre des inexactitudes évidentes qui sont apportées par quelques personnes régulièrement reprises dans la presse, sur lesquelles il me semble qu'il ne peut pas faire de mal de rappeler quelques évidences de culture générale ou de procédure pénale élémentaire pour remettre dans un autre éclairage un certain nombre de fausses confidences journalistiques. Le rapport Bruguière, contrairement à ce qui s'écrit depuis des années maintenant, non seulement n'est pas sur le point de sortir, mais il est encore moins déposé devant le parquet pour règlement. Je voudrais simplement rappeler qu'en 1997, toute fin 97 et au début de l'année 98, dans un article co-signé avec Jean-François Bizot, Pierre Péan nous écrivait déjà au détour d'une phrase que Paul Kagame était derrière l'attentat. L'article était truffé d'erreurs historiques, il revenait en gros sur le mythe d'un grand complot expansionniste d'ethnie sœur, puisque c'est un des grands fantasmes vus de France quand on parle de l'Afrique, donc de ce fameux empire Tutsi-Hima qui avait décidé de conquérir une bonne partie du continent africain. Et Pierre Péan avait donc résolu l'attentat au tout début de l'année 98, autrement dit 3 mois avant que le juge Bruguière soit officiellement saisi d'une information judiciaire concernant l'attentat. En octobre 2000, dans le Vrai Papier Journal, dans un article co-signé avec 2 autres journalistes, Pierre Péan nous apprenait et nous annonçait pour les semaines qui suivaient la mise en examen d'au moins 3 chefs de l'État. Il était question de M. Paul Kagame pour le Rwanda, de M. Museveni pour l'Ouganda, et je crois qu'il peut y avoir aussi un chef d'État tanzanien, bien évidemment, sans compter les innombrables petites mains qui avaient pu servir à l'attentat. Nous étions en 2000, il y a donc 5 ans et demi, et on nous annonçait pour quasiment la semaine prochaine, vous allez voir, le rapport Bruguière va sortir, et à ce moment-là, on pourra enfin savoir qui est derrière ce génocide, puisque pour certains, résoudre l'attentat, c'est résoudre la responsabilité du génocide. Puis il a fallu attendre 2004 pour voir Le Monde d'une manière extrêmement insistante, et au moment même où Le Monde commémorait le dixième anniversaire du génocide des Tutsis du Rwanda, on nous a annoncé que cette fois-ci c'était la bonne, et que vraiment c'était pour la semaine prochaine que le rapport Bruguière allait enfin percer, qu'on allait enfin connaître cette vérité. Et puis en 2005, là cette fois-ci c'était la bonne. Pierre Péan, dans son livre et puis interviewé sur France Inter, alors c'était un petit peu pathétique parce que c'est vrai que Pierre Péan nous annonçait des confidences judiciaires extrêmement précises, mais quand on venait au moment de savoir qu'est-ce que ça voulait dire en fait, que le rapport Bruguière va sortir, d'ailleurs qu'est-ce que c'est que ce rapport Bruguière dont un avocat parti civil au dossier m'a dit l'an dernier, c'est une interview que j'ai publiée dans Goliath, le rapport Bruguière n'existe pas, il s'agit d'un mensonge éhonté, ce texte que Le Monde affichait pourtant un an plus tôt, en 2004, comme étant la clé de cette énigme, eh bien ce texte n'est toujours pas versé en procédure à l'heure où je vous parle. Donc Pierre Péan, c'était pour les jours qui venaient. Là, on est en novembre 2005, au moment de la sortie de son livre. Et puis hier dans l'idée, en conclusion d'un article pourtant fort intéressant, qui justement éclaire les lecteurs de Libération sur l'état d'avancement des plaintes devant le tribunal aux armées, et les répercussions extrêmement importantes que peuvent avoir ces plaintes, et bien malgré tout, un petit acte de grégarisme journalistique parisien, qui consiste un petit peu à répéter ce que disent les confrères, et on apprenait donc hier ou avant-hier, mais je crois que c'était hier dans Libération, que le rapport Bruguière n'attendait plus que les réquisitions du parquet, et que cette fois-ci, vraiment, c'était la bonne. Alors, je voudrais quant à moi rappeler 2 ou 3 simples évidences. Qu'est-ce que c'est qu'un juge d'instruction et qu'est-ce que ça fait un juge d'instruction ? Un juge d'instruction, c'est saisi d'une plainte, d'un délit ou d'un crime, ça enquête, à charge et à décharge. Et puis, quand ça estime que ça a récolté suffisamment d'informations pour éventuellement désigner des responsabilités, eh bien, ça arrête son travail, ça donne son dossier au parquet pour réquisition, mais par ailleurs, après les réquisitions du parquet, le juge rend son ordonnance. Et qu'est-ce que c'est un juge qui rend son ordonnance ? Eh bien, c'est un juge qui dit, voilà, il y a 2 solutions, et il n'y en a pas 3. La première solution, c'est que ce juge, il a réuni des éléments à charge qui permettent d'envisager le jugement de responsable et de coupable. Et dans ce cas-là, le juge, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il préconise ? Il préconise un renvoi. Renvoi devant un tribunal correctionnel pour un délit, renvoi devant une cour d'assises pour un crime. Ou bien, un juge dit qu'il n'a pas pu trouver d'éléments à charge sur les faits qui lui ont été soumis. Et dans ce cas-là, il préconise le non-lieu. Il n'y a pas lieu à poursuivre, je n'ai pas trouvé. On a une alternative, 2 choix. Or, le problème, c'est que de sources judiciaires, et quant à moi, contrairement au journaliste qui évoque le rapport Bruguière, je cite une source qui est Maître Laurent Kurt, avocat de Mme Jacqueline Hérault, elle-même veuve du commandant Jackie Hérault, qui était le pilote, le commandant de bord du Falcon 50, qui a été abattu le soir du 6 avril 1994, au moment où il s'approchait de l'aéroport de Kigali. Eh bien, il n'y a dans le dossier Bruguière, à la connaissance de Maître Laurent Kurt, qui a un accès pour l'instant partiel au dossier, puisque m'a-t-il dit, c'est la première fois depuis sa carrière relativement longue, que le droit élémentaire d'une partie civile à obtenir copie d'un dossier judiciaire est bafoué de manière aussi manifeste, et qu'on lui met autant de bâtons dans les roues pour avoir une copie à son cabinet complète de ce dossier énorme, énorme, constitué d'un nombre de tomes impressionnants, donc d'un nombre de procès-verbaux impressionnants. Il n'y a pas de personne à ce jour, à ma connaissance, ou plutôt à la sienne, qui serait mise en examen dans le dossier Bruguière. ça ne veut pas dire qu'il n'en aura pas demain. Mais ce que ça signifie, c'est que s'il n'y a personne qui est mis en examen dans le dossier Bruguière, et que comme on nous le dit chaque semaine ou chaque mois dans les journaux français, le dossier Bruguière est clos, eh bien, les choses sont mécaniques, le dossier Bruguière se termine par un non-lieu, et c'est pas la peine de nous rebattre les oreilles aussi fréquemment sur cette issue qui désignerait. On n'est pas en train de résoudre un thriller d'Agatha Christie, on parle d'une information judiciaire, il y a plus de 10 morts dans cet avion qui est abattu le soir du 6 avril, et bien évidemment, cet attentat est le signal de départ d'un génocide qui fera 1 million de morts. L'autre élément, c'est qu'une partie civile est automatiquement informée, c'est un droit élémentaire de la clôture d'une instruction, l'avocat n'étant pas informé de cette clôture, eh bien, les journalistes auraient eu un simple coup de fil à passer. Il y a au moins 4 avocats à Paris chargés des intérêts des parties civiles dans ce dossier, puisqu'il y a les 3 veuves des pilotes et que la famille Abiarimana, la veuve de Juvenal Abiarimana et ses enfants sont parties civiles, ont été reçus comme partie civile en 2004 dans cette affaire, donc ont accès à toutes les informations. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le dossier Bruguière. Si je le relis au rôle de la France, c'est parce que, comme le laisse entendre Jean-François, ou en tout cas comme un certain nombre d'ouvrages, de témoignages tout à fait crédibles ont pu l'affirmer depuis 1994, il n'est pas exclu que la France ait pu jouer un rôle, ou au moins des ressortissants français aient pu jouer un rôle dans cet attentat. Mais c'est surtout parce que cette intox, je l'appellerai comme ça, sur le rapport Bruguière, sur l'enquête Bruguière, ça, c'est quelque chose de typiquement français. C'est quelque chose de typiquement français. Et pour une autre raison, c'est quelque chose qui m'apparaît d'une dimension française évidente, eh bien, c'est que ces spéculations sur l'attentat ont 2 effets mécaniques. Le premier, jeter un doute sur la responsabilité de ce génocide. En jouant sur une connaissance parfois superficielle de cet événement, à savoir que puisque tout le monde s'accorde à dire le génocide a commencé dans les minutes quasiment qui ont suivi l'attentat qui était commis le 6 avril 1994, cherchez qui a commis l'attentat et vous comprendrez qui est derrière le génocide. Bon, alors c'est bien évidemment très pratique parce que ça permet de possiblement lire à l'envers le génocide et en fait, en l'attribuant au FPR, de l'attribuer, puisqu'on identifie le FPR, en tout cas à l'époque, sur la période 90-94, à ceux qui seront les victimes, eh bien, si le camp des victimes est à l'origine du génocide, c'est que les victimes sont les auteurs de leur propre génocide. Voilà. Donc c'est un enjeu majeur pour nier le génocide, et c'est un enjeu secondaire, mais très important en France, que de nier ou de jeter un trouble sur le rôle de la France. Si ces choses m'apparaissent importantes, c'est parce qu'elles ont été spéculatives pendant quelques mois ou quelques années, qu'elles sont devenues affirmatives. Je me souviens que la première chose qui m'a frappé dans le livre de Jacques Hogard, Les larmes de l'honneur, qui est sorti en octobre dernier, c'est que dans sa 4e de couverture ou dès ses premières pages, j'ai eu l'impression pour moi-même que c'était la première fois que je le lisais comme ça, on n'était plus au conditionnel, on n'était plus à sourcer une information selon un tel, ce serait un tel qui serait à l'origine du génocide. On affirme. Et depuis, je l'ai vu repris, quand il y a une batterie de tribunes, notamment dans Le Monde, dans Le Figaro ces derniers mois, sur l'opération Turquoise. L'opération Turquoise qui est très importante pour la France, puisque c'est dans le contexte de Turquoise que les soldats dont je vous parlais au début, que les plaintes plutôt contre des soldats français ont été déposées. Donc voilà, aujourd'hui, c'est devenu affirmatif. Le FPR est derrière l'attentat. Et à travers cette information-là, on jette un doute sur la réalité d'un génocide et sur le rôle qu'a pu y jouer la France. Et je terminerai sur ce point, en espérant n'avoir rien oublié d'important de ce que je voulais vous dire, en vous disant que pendant que tout le monde regarde le doigt, la Lune, personne ne la regarde. Et la Lune, elle est à Arusha, où on est vraiment rentré dans le fond du procès de Théonès Bagosora, considéré comme le cerveau du génocide, où tout un tas de choses passionnantes se disent, y compris sur cet attentat. Je fais référence notamment aux histoires de 120 missiles qu'évoquait Jean-François Dupaquier. Et ça, pour le coup, ça n'est pas Pierre Péan qui va vous en parler du procès Bagosora. C'est pas sur France Inter que vous en aurez des retranscriptions détaillées. Ça, on n'en a que des miettes. Il faut soit avoir une motivation très forte des réseaux quand on est journaliste ou chercheur et pouvoir tracer des passerelles avec des gens qui Arusha travaillent ou s'y rendre, mais en termes de production journalistique, de compte-rendu journalistique, le troisième génocide du XXe siècle est jugé dans un coin de l'Afrique et nous en avons ici, dans nos médias, à mon sens, aucune information. Ce génocide est jugé en dehors des regards. Les informations qui nous permettraient d'éclairer le rôle qu'ont pu jouer et la France et d'autres puissances extérieures au Rwanda se déroulent à notre insu. Et je voudrais terminer en rappelant que là aussi, il faut se méfier des illusions d'optique ou se méfier de ce qu'on regarde entre la lune et le doigt. La caractéristique d'un génocide, c'est que ses auteurs les plus hauts, ses auteurs premiers, sont ceux qui l'ont pensé, qui l'ont planifié, qui l'ont rendu possible. Il n'est pas contradictoire d'avoir été l'organisateur d'un génocide et d'avoir quitté le Rwanda avant même le premier jour du génocide, de s'être trouvé à des milliers de kilomètres du Rwanda pendant que se commettait ce génocide. C'est valable pour des ressortissants rwandais, ça n'est pas valable que pour eux. Il n'était pas besoin de tenir une machette, il n'était pas besoin de se trouver au Rwanda d'avril à juillet 1994 pour être auteur, co-auteur, responsable, co-responsable de ce génocide. Voilà, merci.
On va donner la parole à la salle. Si vous avez des questions.
Moi, une, c'est de qui tu parles quand tu dis ceux qui n'étaient pas là-bas, qui l'ont pensé, c'est
ça. Parce que ça n'a pas été clairement dit, en tout cas, je ne l'ai pas compris. Qui c'est qui est, tu sous-entends qu'il y avait des gens qui étaient déjà partis du Rwanda et qui étaient plus à la base, qui avaient réfléchi au génocide, et tu as des informations là-dessus, c'est quoi?
Non, en fait, c'était pas le sens de ce que je voulais dire. Je veux dire par là que je ne pensais pas à désigner quelqu'un en particulier. Je voulais simplement terminer en disant qu'il faut parfois se méfier des apparences. Je voudrais juste rappeler une phrase de M. Jocelyn, qui a été la ministre de la coopération du gouvernement Jospin et qui était donc ministre de la coopération au moment de la mission qu'il a, la mission d'enquête parlementaire sur le Rwanda. Et il a eu cette fameuse phrase, frappée au coin du bon sens, si on arrête d'y réfléchir immédiatement après l'avoir entendue. Ce n'étaient tout de même pas des Français qui tenaient les machettes. Bon. Et donc, je ne pensais à personne en particulier. Je voulais simplement rappeler que quand on s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'une complicité de génocide, il faut quand même faire ce travail qui n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on est instinctivement porté à penser que pour être l'auteur d'un crime, il faut avoir tenu l'arme du crime. Bon. Or, la mécanique d'un génocide est très différente. Quand on a conçu les médias de la haine, qui vont appeler, embrigader, et faire que tout un peuple, qui vont contribuer à ce que tout un peuple se mette à tuer son voisin sur ordre, parce qu'un État a embrigadé une population entière, eh bien, il faut juste se rappeler que les principaux organisateurs n'ont pas forcément de sang sur les mains au sens propre. Voilà.
Il y a une autre question ? Une autre question ? Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est M. Renaud, l'auteur du dernier livre de l'histoire. Alors, assurez-vous d'être obligé de venir.
Vous parlez plus fort.
Alors, pour information, c'est M. Renaud qui a fait le dernier dossier noir et il parle justement de la militarisation dans le conflit du Rwanda, du génocide du Rwanda.
Présentation. Oui. Je voulais juste vous poser la question, deux petites questions un peu techniques. Que sont devenus, qu'est devenu l'ambassadeur français, donc c'est Marlowe, je crois, ou est-ce qu'il est en poste dans d'autres endroits assez intéressants de la France-Afrique ou... Et puis, est-ce qu'il est. Qu'en est-il d'éventuelles poursuites contre Paul Barine?
Je laisse Jean-François répondre pour Baril. Pour ce qui est de Marlowe, il est aujourd'hui ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande. Et globalement, je dirais que je connais peu de cas de responsables de l'armée ou de responsables civils ou aux fonctionnaires qui étaient rétrogradés après le génocide. On pourrait considérer que les affectations ont été entre de discrètes promotions, mais une des caractéristiques qui m'apparaît, c'est un certain éloignement géographique de Paris. Puisque certains se sont retrouvés en Amérique latine, en Bolivie. Non, d'ailleurs, c'est lui. Il est passé par la Bolivie avant de rejoindre la Nouvelle-Zélande.
Oui. Alors, on peut parler de Barry, on peut parler de toutes sortes de gens. D'ailleurs, si on parlait aussi un petit peu du lieutenant Abdoul Rouzibiza, il dit à M. Bruguière qu'il est co-responsable de l'attentat contre l'avion, dont on nous dit aujourd'hui que c'est cet attentat a causé 1 million de morts. Qu'est-ce que fait M. Bruguière de M. Rouzibiza? Il dit, je vous remercie, voulez-vous un café avant de repartir en Suède? Donc... C'est intéressant comme façon de traiter des gens qui sont supposés avoir participé à un crime absolument abominable qui a conduit à un génocide. Concernant M. Baril, M. Baril, il n'est pas aussi idiot qu'il en a l'air. Dans son livre « Guerre secrète à l'Elysée », vous savez qu'il écrit qu'il était sur une colline du Rwanda le 6 avril au soir, au moment où l'avion est touché, pas de chance, par un missile. Les barils portent malchance au chef d'État qui est supposé aider parce qu'il était aussi au Burundi 15 jours avant que le chef d'État soit assassiné. Il porte la poisse, M. Baril. Et il a failli porter la poisse à la commission d'information parlementaire, pardon, à la mission d'information parlementaire. C'est une sémantique qui est difficile à accepter. Ouais. Puisque moi je me souviens avoir été interrogé à plusieurs reprises par les gens donc de cette mission qui étaient réellement angoissé à l'idée que Baril pouvait empêcher la mission de se poursuivre, car vous savez qu'au nom de la séparation des pouvoirs, on en a encore parlé récemment, des parlementaires ne peuvent pas enquêter sur une enquête en cours, et Baril instrumentalisant certaines plaintes, notamment celle de Mme Munaberry, la femme du pilote du Falcon, grâce à une avocate, l'avocate de Mme Munaberry, l'avocate de M. Baril. Vous savez, dès qu'on parle de l'Afrique, on est dans les querelles de famille ou dans les histoires de famille, surtout dans la France-Afrique. Eh bien, la mission d'information, c'est bien gardé d'interroger M. Baril. Et c'est quand même très dommage pour un homme aussi compétent qui se trouvait justement sur une mystérieuse colline du Rwanda. On espère que ce n'était pas la colline Masaka. Au moment de la colline Masaka, on tirait des missiles sur l'avion. C'est quand même très très étrange, d'autant plus que toujours dans ce livre que vous trouverez chez les bouquinistes maintenant, donc vous le trouverez moins cher, Guerre secrète à l'Elysée, je vous rappelle. Monsieur Baril explique que l'attentat contre l'avion est lié à de sournoises querelles au sein même de l'Elysée et qui ont conduit au suicide de Grossouvre. Et parce que Baril nous explique que de Grossouvre s'est suicidé, ou plutôt a été suicidé, à cause de l'attentat contre le Falcon. Ce serait quand même bien qu'un jour Baril nous explique tout ça, parce qu'on n'y comprend rien. Mais il n'est pas le seul, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire pour vous amuser. Vous avez noté que le livre de M. Abdul Rosibiza a été édité par Mme Géraldine Fais. Vous ne savez pas qui est Mme Géraldine Fais pour certains d'entre vous, vous ne savez pas que c'est la femme de M. Stephen Smith. M. Stephen Smith répétant depuis 10 ans par une haine absolument invraisemblable et même maladive des Tutsis qu'ils sont responsables de leur propre malheur. Mais je vous raconte une autre histoire que vous ne connaissez pas encore pour la plupart d'entre vous. Vous savez, il existe une agence d'information qui se trouve à Arusha, qui s'appelle la Fondation Hirondelle. Il y a quelques journalistes qui sont payés par des fonds internationaux pour suivre l'action du tribunal, et c'est une bonne chose en soi parce que cette action est insuffisamment médiatisée. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une audience extrêmement importante au tribunal d'Arusha dans le procès Bagosora, c'est l'audience du, je ne sais plus si c'est le 16 ou le 18 novembre. Dans lequel M. Bagosora s'est vu présenter en séance publique la lettre à l'état-major de l'armée rwandaise disant qu'il fallait absolument 120 missiles. En séance publique, devant qui voulait y assister, y compris les touristes qui étaient de passage à Arusha pour aller voir autre chose. Le devis de la société égyptienne qui proposait la vente de ces 120 missiles avec les numéros des missiles. Les photocopies du carnet de M. Bagosora qui laissaient comprendre qu'il y avait une très très grosse somme d'argent qui avait servi à payer quelque chose qui ressemblait à la somme figurant sur le devis des missiles. Et ce jour-là, le procureur a dit à M. Bagosora, c'est vous qui avez fait abattre l'avion. C'est vraiment intéressant de voir cette audience. Alors on se dit, peut-être que la Fondation Hirondelle s'est précipitée sur ces téléscripteurs pour nous donner une dépêche, pour nous raconter cette audience du 16 novembre 2005. Eh bien, cette dépêche, elle est parue, vous savez quand ? Le 3 février 2006. Et quand vous regardez les dépêches de la Fondation Hirondelle, je vous conseille de les regarder très attentivement, parce qu'à la fin de la dépêche, il y a deux initiales. GF. Ces deux initiales sont les initiales de la personne qui contrôle toutes les dépêches de l'agence Hirondelle, de la Fondation Hirondelle, l'agence Hirondelle, et ce GF là c'est Mme Géraldine Fais, la femme de Stephen Smith. Donc il ne peut pas dire qu'il n'est pas très informé de ce qui se fait au tribunal et jouer les étonnés quand on lui apprend des choses pareilles. Alors je vous dis ça pour que vous compreniez que on est quand même en face d'un déficit d'information qui n'est pas le fruit du hasard. un déficit d'informations qui est soigneusement organisé. Par exemple, si vous regardez ce que les différents périodiques de l'armée française ont écrit sur le génocide, c'est phénoménal. C'est quasiment le club méditerranéen et on va sauver ces pauvres Européens là, qui sont victimes, qui sont tombés dans les griffes des sauvages. Vous savez que le CIRPA, la société d'information de l'armée française, a plus de 400 journalistes. Ils ont des moyens colossaux et c'est dommage que ces moyens colossaux servent à éditer autant de petites pravdas. Parce que c'est un petit peu comme ça quand on lit tous ces magazines, Terre, Air, Mer, Col Bleu et compagnie, qu'on voit qu'on ne nous informe de rien et qu'au contraire, on est là pour nous désinformer en permanence. Alors je ne dis pas que Stephen Smith est un agent de la DGSE ni de l'armée française, parce que sûrement il me ferait un procès. Il fait déjà assez de procès comme ça à tous les gens qui disent des choses sur lui qui sont frappées au coin du bon sens. Je dis seulement que Stephen Smith est un être qui mérite une diffamation. Qui mérite une diffamation, parce que quand on écrit un chapitre du livre de M. Péan, où le racisme du plus bas étage va d'un bout à l'autre de ce livre, non seulement le racisme, mais l'insinuation antisémite, les insinuations contre les francs-maçons, etc., des choses absolument abjectes qu'on croyait aux poubelles de l'histoire, qu'on croyait réservées à la frange juive de M. Drumont, parce que M. Drumont non seulement haïssait les juifs, mais haïssait les francs-maçons, etc. aussi. Eh bien, on est désolé qu'un homme de cette carrure ait réussi à atteindre des postes aussi inexpugnables que le service étranger du Monde, où il a accumulé des mensonges, comme l'histoire de la boîte noire, pour gâcher les 10 ans d'anniversaire du génocide au Rwanda. Il a d'ailleurs malheureusement un petit peu réussi, parce que le mensonge s'est étalé en une, mais le rectificatif s'est caché dans une page verso loin. Et ça, c'est spécifique à la France. Nous avons en France un système d'information qui est entre les mains d'un cabinet noir. Et là, Payan, il a raison, il y a un cabinet noir. Malheureusement, il devrait se regarder dans la glace pour voir ce cabinet noir, parce qu'il est derrière lui, il est derrière Payan, il est derrière Stephen Smith, il est derrière tous ces gens, derrière Madame Smith, etc. Tous ces gens qui font tout pour que l'information ne passe pas, pour contrôler l'information. Et pour en finir avec cette histoire, Monsieur Smith, qui pratique parfaitement l'anglais, eh bien, il a lu tous ces livres en anglais sur le génocide, ces livres que malheureusement nous on n'a pas encore en français pour que la vérité éclate complètement. Mais tout ça, on n'en a jamais vu nulle trace dans ses écrits. Tout ça, ça ne doit pas apparaître pour le public français. On vit vraiment dans un petit monde un petit peu clos, où on a une classe politique qui est complice du génocide, il faut le dire quand même clairement, à droite et à gauche, massivement complice du génocide, et avec des journalistes qui leur servent la soupe.
Sur la table de presse, vous aurez une réponse au livre Négrologie fait par M. Smith, qui a été fait par Mme Taubner et M. Boubacar Diop, qui est d'ailleurs présent dans la salle. Le voici. Donc c'est une réponse.
Et Verschal.
Et de M. Verschal, qui c'est une réponse qui démonte le discours raciste de M. Smith pour ceux que tout ce que a fait M. Smith intéresserait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi le livre? Négrologie.
Négrophobie.
Négrophobie.
Sinon, vous achetez le livre de Smith.
Oui, voilà.
C'est comme... on n'a pas en vente.
Voilà. Il est édité aux arènes grâce à M. Lélibar, entre autres.
Ah, seulement.
Est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît, parce que
Non, mais ça va aller, je peux parler fort. Vous m'entendez?
Non, il faudra répéter la question.
Le problème, c'est pour l'enregistrement. Il faut vous approcher du micro.
Voilà, je me demandais ce que c'était que ce tribunal. Parce que, bon, moi, je connais pas très bien le Rwanda, mais par contre, je connais très bien la Yougoslavie. Et je peux vous dire, mais c'est pas le sujet ce soir, mais je peux vous dire qu'il y a énormément de similitudes. Et en particulier, je me permettrais de proposer aux gens que ça intéresse, j'ai le discours de défense, d'introduction à sa défense de M. Milosevic, qui n'a absolument pas été diffusé. Et pour cause, si vous le lisez, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Et voilà, je voulais demander si ce tribunal, quelle valeur il avait, parce que bon, le tribunal pénal pour la Yougoslavie n'a aucune valeur. Il est financé par ceux qui ont détruit la Yougoslavie. Alors je voulais savoir sur le tribunal pour le Rwanda ce qu'il en était.
Eh bien, il faut dire franchement que si on examine la compétence des gens qui travaillent dans ce tribunal, on est parfois un petit peu catastrophé. Surtout au Rwanda, où là, il y a la partie du tribunal qui est consacrée aux enquêtes. C'est vrai que vous beaucoup d'entre vous, je pense, ont lu des livres sur le génocide au Rwanda. Mais vous êtes vraiment interpellé quand vous êtes en face d'un enquêteur, et parfois en face d'un magistrat qui n'a jamais lu un seul livre sur le génocide, et qui travaille déjà depuis 2 ou 3 ans sur le Rwanda. Et vous êtes choqué quand vous allez à Arusha, vous trouvez des gens qui ont refusé même d'aller au Rwanda, donc qui enquêtent, soi-disant, enfin, en audience publique sur le Rwanda, mais qui refusent d'y mettre les pieds. Ça, c'est quand même un peu consternant. Mais bon, c'est si on creusait peut-être certains aspects du tribunal de Nuremberg, on serait peut-être déçu aussi. Il n'empêche que ce qu'il faut surtout retenir, c'est à la fois le symbole et puis la dynamique, c'est-à-dire tout ça a quand même contribué à finir par constituer ce tribunal pénal permanent que tous les défenseurs des droits de l'homme attendent. Alors sur le fonctionnement du tribunal sur le Rwanda, le TPIR, vous avez ce livre de Cruvelier qui doit apparaître comme par hasard le 5 avril prochain, qui s'appelle « Le tribunal des vaincus ». Bon, je l'ai lu, ce n'est pas très intéressant, très contestable sur certains aspects, pas vraiment choquant, un petit peu, je vais dire, un peu bas de gamme, malheureusement. Ça ne vaut pas du tout un livre extraordinaire qui était écrit par Telford Taylor, qui était procureur à Nuremberg, qui s'appelle d'ailleurs « Procureur à Nuremberg », qui est paru en 1995, qui était une sorte de pédagogie de la justice internationale racontée par celui qui a été procureur, même s'il le racontait 40 ans après ou 50 ans après, ça restait très très intéressant. Et il n'y a pas grand-chose qui a été écrit sur le fonctionnement même du tribunal pénal international pour le Rwanda. Alors on est un peu déçu, mais je dois vous dire que moi je l'ai vu sur plusieurs années, j'y étais encore récemment, là, il y a un mois, j'ai vu qu'il y avait une amélioration. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une amélioration? C'est aussi parce que normalement ce tribunal doit achever ses travaux en 2008. En 2008, tout le monde s'en va. On ferme le tribunal à Arusha. Les affaires en appel seront traitées à La Haye. C'est prévu. Donc ils auront envoyé à La Haye quand même quelques juges pour clore les dossiers.
Excusez-moi, à La Haye, c'est-à-dire à la Cour de justice de l'ONU.
Alors oui, alors La Haye, c'est la même chose, mais en fait, ça c'est la Cour d'appel.
Oui, c'est bien de le préciser parce que le tribunal pour la Yougoslavie siège à La Haye.
Oui, alors il siège, alors le siège à La Haye siège au tribunal pour l'ex-Yougoslavie, à la fois en première instance et en appel. Et le tribunal pour le Rwanda siège à Arusha. Au départ, il était prévu qu'il siège à Arusha en première instance et en appel à La Haye. Mais là, c'est de toute façon en appel à La Haye parce qu'à partir de 2008, il n'y aura plus d'audience à Arusha. On aura fermé à la fois les services du procureur et les enquêtes à Kigali et on aura fermé à Arusha. Alors, il y a une négociation en ce moment qui est menée avec le gouvernement rwandais pour que ce tribunal continue au Rwanda. Parce que les grands esprits internationaux ont toujours prétendu que les Rwandais n'étaient pas capables de faire ce travail. Mais quand on voit qu'en l'espace de 11 ans, on a jugé seulement une vingtaine de personnes à Arusha, on se dit que au Rwanda, ils ont fait beaucoup mieux puisqu'ils ont jugé quand même 12 000 personnes, par une justice normale, hein, on ne parle pas de la gachacha. Et donc, s'il y a certaines garanties qui sont apportées, notamment le fait qu'on n'applique pas la peine de mort aux personnes qui seront remises au Rwanda pour être jugées, on peut peut-être imaginer qu'une structure nouvelle apparaisse au Rwanda qui poursuive le travail et qu'ainsi on continue parce que il faut que vous compreniez bien que le tribunal pénal international a arrêté environ 80 personnes seulement. Alors ce sont les gens qui ont commis les pires actes pour certains d'entre eux, mais d'autres courent encore. Et cela, s'il n'y a plus qu'une cour d'appel, on ne sait pas très très bien encore comment ça va marcher. Est-ce qu'ils seront remis à la cour pénale permanente ou est-ce qu'ils seront remis à un grand tribunal qui sera créé au Rwanda spécifiquement pour ce qu'on appelle les architectes du génocide? Tout ça est encore en négociation. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi les Rwandais ne seraient pas capables de le faire. Hein, 11 ans après, ils ont quand même fait la preuve qu'ils étaient capables de reconstituer un système judiciaire à partir de quasiment rien, puisque tout avait pratiquement disparu, puisque tous les magistrats Tutsi, les employés Tutsi des tribunaux avaient été tués, tous les autres ou presque avaient fui. Et les tribunaux avaient été totalement dévastés. Moi j'avais visité en 94-95 des tribunaux, au Rwanda c'était des ruines. Ça n'avait plus rien d'un tribunal. Alors tout ça a été reconstitué, tout ça remarche plus ou moins bien. Donc peut-être il vaut mieux transférer au Rwanda cette action du tribunal plutôt que qu'il ne se passe plus rien.
Je voudrais juste préciser que en termes de lieux d'incarcération, pour l'instant les personnes condamnées à Arusha sont détenues à Arusha. Cette situation s'arrêtera en même temps que le tribunal d'Arusha s'arrêtera et que des accords sont passés avec différents pays pour que la gestion des peines soit effectuée dans différents pays. La France fait partie de ces pays. et ça pose d'éventuelles questions, c'est-à-dire que le système de droit français de réduction des peines, de grâce et autres pourrait s'appliquer pour les principaux génocidaires. La France n'a jamais fait le moindre effort, elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans le dossier Mounier-Chaka pour instruire des procédures dont elle avait la charge. Mon petit doigt me dit qu'elle pourrait être plus zélée pour faciliter la gestion des peines des principaux organisateurs du génocide. Et la petite réflexion qui fait écho à l'échange qu'on a eu tout à l'heure sur le point que j'ai soulevé en concluant, c'est que je remarque pour ma part simplement qu'il n'y a que des Noirs jugés à Rocha.
Juste ajouter que la Cour européenne des droits de l'homme est dépend du Conseil de l'Europe et non de l'Union européenne. Mmh. C'est deux choses distinctes. Le Conseil de l'Europe a 46 États, mais pas du moins.
Je vais demander à Jean-François Dupaquet quels sont les livres en anglais clés qui n'ont pas été traduits en français et pour quelles raisons.
En fait, il me semble que la question, ça reste plutôt à Médiba, qui connaît mieux le monde de l'édition, mais moi je dirais que ce qui est tout à fait regrettable, c'est que le livre de Linda Melvern, qui s'appelle Conspiracy to Murder, le génocide in Rwanda, qui est paru il y a exactement 2 ans pour le 10e anniversaire du génocide, ne soit pas traduit en français, parce que sur ce thème de la conspiration du génocide, tout ce qu'elle dit est absolument clair. Linda Melvern est consultante dans le procès Bagosora. Elle a amené une très très abondante documentation qui a servi notamment à l'audience dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'une grande partie des documents vient de ses propres archives, qu'elle a été la seule à découvrir au Rwanda et que personne n'a exploité depuis. C'est quand même absolument invraisemblable. Il y a passé 15 jours dans une pièce qui était remplie de documents, dont certains venaient des archives des anciennes forces armées rwandaises en fuite au Congo, c'est-à-dire qui avaient été saisies par la PR, ramenées à Kigali, elles étaient les seules à les voir. C'est très très dommage que ce livre ne soit pas traduit en français, mais le vrai problème, elle trouverait un éditeur si on avait une traduction. Ça coûte très cher de bien traduire un livre comme ça, mais je pense que maintenant il faut qu'on y arrive vraiment, et il me semble qu'on est plusieurs à se battre pour que Melvin soit traduite en français, parce que ça, franchement, ça ferait vraiment avancer la vérité.
Bah, en ce qui me concerne, moi j'ai dans ma bibliothèque People Betrayed de Linda Melvern, qui est sorti un peu avant celui dont vient de parler Jean-François, qui est un livre tout à fait intéressant sur la communauté, le rôle de la communauté internationale, précisant bien que la communauté internationale, c'est pas un État, et puis de l'autre côté, vous avez la France qui est un État. La communauté internationale, c'est aussi la France. Pour ce qui est de livres dont vient de parler Jean-François, Conspiracy to Murder, moi je dois avouer et confesser mon ignorance, j'en ai appris l'existence il y a à peu près 3 ou 4 semaines. Nous en avons demandé un exemplaire de lecture à l'éditeur anglais aux Arènes, sachant qu'une version actualisée doit sortir en poche ce mois d'avril. Nous attendons cette version de lecture en anglais, je la lirai aussitôt reçue. Et si les amis qui l'ont déjà lu et qui m'ont témoigné de leur intérêt, si ça t'intéresse, confirme à la lecture, on prendra les dispositions qu'il faut pour le traduire vers le français, c'est évident. Me concernant, je veux juste préciser que depuis 12 ans, j'ai essentiellement en tant qu'éditeur ou en tant qu'auteur ou en tant que journaliste indépendant, cibler mes travaux sur le rôle spécifique de la France dans le génocide. Ça n'est pas non plus un parti pris bête et méchant et aveugle. Aujourd'hui, un livre qui démontre le complot préalable au génocide me semble d'un intérêt capital. Il est bien évident qu'on serait tout à fait susceptible d'étendre notre ligne éditoriale sur ce sujet aux livres de Linda Melvern qui sont tout à fait passionnants.
Si tu permets que j'ajoute un petit mot, dans le premier livre de Linda Melvern, Un peuple trahi, en anglais évidemment, elle explique le rôle des Anglais au Conseil de sécurité, parce que ça on ne le sait pas en France, mais les Anglais ont joué un rôle essentiel, bien plus que les Américains, pour faire retirer le contingent de la MINUAR au moment du génocide. Et ça a fait du bruit en Angleterre, parce que les Anglais se sont sentis vraiment interpellés par cette histoire, parce que ce n'est pas les Américains, contrairement à ce qu'on pense en France, on est tous un peu imprégnés d'anti-américanisme. Ce sont les Britanniques qui ont joué le rôle phare pour faire partir les soldats de la MINUAR, enfin l'essentiel des soldats de la MINUAR. Et dans son deuxième livre, donc Conspiracy to Murder, il va paraître dans quelques jours dans une nouvelle version, avec 2 chapitres supplémentaires. Et c'est bien parce qu'un des 2 chapitres, c'est sur le procès de Bagosora, c'est dont on parlait tout à l'heure. Et puis l'autre, c'est sur l'attentat contre l'avion. Alors je crois que ça va vraiment secouer. Je vous conseille de l'acheter sur Amazon.com dès qu'il va apparaître, d'ici 15 jours, à mon avis, au maximum. Ça va vraiment faire du bruit.
Faudrait pas me le dire avant, on aurait pris une option en aveugle. Il faut venir au débat avec Jean-François pour apprendre ce genre de choses. Est-ce que vous voulez couvrir le monde?
Le nom du livre. Alors, le titre, s'il vous plaît, parce que d'autres personnes vont le commander.
Alors, j'ai un doute là tout d'un coup, même si on lui a demandé un conspiracy, to murder.
M-U-R-D-E-R.
M-U-R-D-E-R, je ne sais pas s'il y a un sous-titre.
Oui, il y a un sous-titre, c'est Genocide in Rwanda.
Et Linda Melvern, M-E-L-V-E-R-N, c'est une journaliste d'enquête qui collabore à certains journaux anglais. Là, je suis plus sûr des références, je ne sais plus si ça me détaille. Par contre, pour l'éditeur, tu te souviens, toi?
Non, j'avoue que je ne me rappelle pas de l'éditeur, mais si vous allez sur Amazon.com...
sur Amazon ou sur des...
Sur Amazon.com, vous allez... si vous faites Google, Linda Melvern, vous tombez sur son livre, et il y a un lien direct sur Amazon.com, et vous faites une bonne action d'abord, parce qu'il ne coûte rien, ce livre c'est moins cher qu'en France, je crois que c'est 14 ou 15 dollars, yes. Et deuxièmement, en plus, il y a une partie de l'argent qui va à une fondation pour les droits de l'homme, alors vous voyez, c'est vraiment une double bonne action. Le seul problème, c'est que si vous l'achetez maintenant, vous n'aurez pas la nouvelle version qui paraît, je vous dis, dans quelques jours. Oui, mais là en France, c'est bien.
Je voulais savoir, est-ce qu'on peut aujourd'hui comprendre, non pas à partir des faits dont on parle ce soir, sur l'engagement de la France, mais quelles sont les raisons de fond que la France s'est trouvée à embarquer dans cette galère tragique? Qui a fait que, aujourd'hui, donc la question est en débat de sa complicité dans un génocide, et pour quelles raisons politique ou stratégique, la France, dans ces parties de l'Afrique, s'est trouvée impliquée à un point tel qu'elle a dû, pour des raisons évidemment qui sont encore, je crois, à définir et qui ont été traitées, je trouve, jusqu'à présent, elle s'est trouvée dans un engrenage qu'elle a elle-même alimenté, elle-même créé, peut-être suscité, mais à un point tel qu'aujourd'hui elle doit nier dans l'ensemble et qui, évidemment, qui crée dans l'opinion un scepticisme quant à sa responsabilité, compte tenu de l'ampleur du drame. Donc il y a bien derrière tout ça des raisons profondes qui n'ont pas été le cas dans d'autres pays d'Europe qui se sont dégagés à un moment ou à un autre. Donc comment on peut définir, est-ce qu'on peut cerner les raisons, comment on en est arrivé là, quoi. Et ça, je trouve qu'évidemment, c'est une question qui est majeur si on veut comprendre le sens de ce génocide. Si, hein, si.
Bien évidemment, la question est centrale et extrêmement, non pas complexe, mais en tout cas pour ma part, j'en suis au stade des hypothèses, mais vous avez entièrement raison de pointer que cette incompréhension tout à fait naturelle, comment est-ce possible, comment aurait-on pu faire ça, bloque le fait même d'admettre les faits quand les faits sont sur la table. Ça, c'est incontestable. Je l'ai mesuré souvent. Alors, moi, je vais vous dire, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse assurée. C'est quelque chose auquel je réfléchis sans doute tous les jours et j'espère un jour formuler par écrit parce que je pense que ce sera plus simple, un début d'hypothèse. Je pense qu'en fait, une première manière de vous répondre pourrait être de vous dire, êtes-vous sûr que c'est si étonnant que ça? Regardez l'histoire de la France avec son empire, et en particulier son empire d'Afrique, regardez comment et au nom de quel moteur et avec quelle répercussion pour les peuples dont on parle s'est passée la colonisation, mais peut-être d'une manière quasiment constante, les fausses indépendances et la période des décolonisations. Et une première manière, quand on me pose de cette question, de répondre est de renvoyer les gens vers un ouvrage qui ne traite pas du Rwanda, qui a été écrit 2 ans avant le génocide, qui ne traite même pas du rôle de la France, qui s'interroge sur la corrélation entre l'idée coloniale et l'extermination des peuples. Cet ouvrage, alors j'ai l'habitude, ne prenez pas ça pour une publicité maison, parce que cet ouvrage s'appelle « Exterminer toutes ces brutes ». Son auteur s'appelle Sven Lindqvist, L-I-N-D-Q-V-I-S-T. Je fais la publicité de ce livre à chaque débat où j'interviens depuis quelque temps, et je renvoyais jusque-là vers l'éditeur Le Serpent à Plumes, qui a été l'éditeur de ce livre. Le Serpent à Plumes a été absorbé par Le Rocher. Et il se trouve donc que les éditions des Arènes où je travaille aujourd'hui vont publier au mois d'avril ou de mai le dernier livre de Sven Lindqvist qui s'appelle Terra Nullius et qui là traite de la colonisation de l'Australie, et nous en profitons pour acheter les droits d'exterminer toutes ces brutes pour le publier aux Arènes. Alors voilà, c'est une première réponse, c'est de vous renvoyer à Civre et de vous faire vous interroger sur la filiation qu'il y a au fond entre la pensée. Je vais vous dire, la pensée de Darwin et la pensée de Bernard Lugan, c'est la même pensée. Bernard Lugan, aujourd'hui, il enseigne à l'école de guerre, il enseigne à l'IHEDN, il intervient dans tout un tas d'officines qui forment les militaires français. Aujourd'hui, ces militaires français, c'est les militaires français qu'on envoie en opération extérieure, c'est les militaires français qui se sont retrouvés comme le général Piennot, comme le général Huchon, à superviser le dossier Rwanda. Cette pensée, elle est restée figée. Elle est figée à Fashoda, elle est figée au 19e siècle, elle est figée dans la pensée raciale, et elle est figée dans une certaine idée de la France. Alors, ce serait la deuxième manière de vous répondre, c'est j'ai bien peur, j'ai moi-même cru pendant quelques années, c'était trop incroyable. Alors j'ai cru que c'est en cherchant des enjeux de ce qu'on appelle la réelle politique, le trafic d'armes, le fait que le Rwanda pouvait être une passerelle de réexportation, que éventuellement des technologies nucléaires allant vers l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid, que tout un tas de ces magouilles-là pouvaient lier. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais je dis qu'aujourd'hui, je pense que ça ne peut pas être ça l'élément central. Parce qu'il n'y a aucun élément de réelle politique qui justifie que vous mettiez en équation la vie d'un million d'innocents. Donc je pense que c'est encore plus profond que ça. Une troisième manière de vous répondre, c'est cette espèce de chose qui semble presque incroyable. Moi, je dois avouer que pendant des années, j'ai cru que c'était le leurre qu'on nous agitait sous le nez pour nous faire regarder ailleurs et regarder le doigt, justement. C'est cette idée de la francophonie, francophonie au sens politique du terme, d'un espace, d'un empire reconstitué, puisqu'on n'a plus le droit d'avoir un empire, et qu'au fond, dans ce jeu de domino, vous avez une carte et vous déplacez vos pions, et bien vous aviez cette idée que le Rwanda était un pays charnière. Un pays charnière avec une Afrique qui n'était pas notre Afrique, entre la nôtre et celle des autres. Un pays charnière parce que, à travers sa langue, ça, il faut s'interroger là-dessus. La question de savoir si le Rwanda est un pays francophone ou rwandophone, elle agitait les états-majors civils et militaires, c'est pas un détail dans cette affaire. Alors, parlez-en avec des Rwandais. Est-ce que c'est un pays rwandophone, francophone, le Rwanda? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est pas un pays qui n'y a rwandophone et le reste, on s'en fout? Donc, c'est une autre manière d'appréhender les choses, l'intérêt de la France. Et puis, il y a quelque chose, je vais vous dire, on n'y a pas prêté attention pendant très longtemps. Aujourd'hui, si on me demande pourquoi le Rwanda, je vous dirais parce que le Tchad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant les années 80, c'est quelque chose, même pour moi, qui est un petit peu ancien, j'en ai pas les détails en tête, comme pour les relations politiques entre la France et le Rwanda. Dans les années 80, la France s'est comportée au Tchad comme elle se comporte partout dans ce qu'elle considère être resté son empire, parce qu'elle y a laissé son empreinte. Et alors, au Tchad, on a mené, au fond, une guerre préventive contre la Libye de Kadhafi. On a envoyé des contingents à plusieurs reprises. On a occupé le pays militairement. Et qu'est-ce qui était important au Tchad, et qu'il a été au Rwanda? Et ça, c'est attesté, je parle bien, en clarifiant les sources. Là, je parle de ce que nous disent officiellement et sans s'en cacher les responsables politiques français. Là, je parle d'Hubert Védrine, je parle de tous ceux qui ont été ministres, je parle de ceux qui ont été responsables de la cellule Afrique. Ils vous parlent tous du Tchad. Moi, j'ai pas fait attention pendant longtemps, et puis là, ça a commencé un petit peu à cogiter. C'est tout bête. Qu'est-ce qui fait que la France reste, à ses yeux tout du moins, une puissance parce qu'elle a des États qui lui font allégeance et que ces États se retrouvent pour l'essentiel en Afrique? C'est la garantie de sécurité. C'est qu'avec les régimes avec lesquels vous traitez, s'il y a le moindre péril, le moindre danger, la France, elle fait ni une ni deux, et la légalité, c'est pas son problème, et ça, elle l'assume. Il n'y avait pas d'accord de défense avec le Tchad. La France a envoyé ses militaires pour préserver un régime. Il n'y avait pas d'accord de défense avec le Rwanda, même si les hommes politiques français perdent la mémoire avec le temps, et plus les années passent, et plus ils vous en parlent de ces accords de défense. C'est-à-dire qu'ils ont fini par y croire à ces accords de défense. C'est normal. La France se comporte partout en Afrique comme si elle était liée par des accords de défense, et elle n'a pas besoin en fait d'accords de défense. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette histoire du Tchad et dans cette histoire du Rwanda? Et ça, c'est dit dans les documents des archives de la présidence, c'est dit dans les auditions devant la mission parlementaire. Eh bien, c'est que notre garantie vis-à-vis de tous ces pays d'Afrique qui nous permettent, par exemple, d'avoir une envergure à l'ONU qu'on n'aurait pas sans eux, parce qu'on peut compter sur leur voix, et ça, ça a été tragique au moment du Rwanda, parce que nous avions des États valets qui étaient au Conseil de sécurité de l'ONU et qui, sur toutes les décisions importantes, étaient au garde-à-vous de la France. Eh bien, ça veut dire que pour que M. Bongo, pour que M. Biya, pour que M. Eyadema, père ou fils, pour que tous ces gens restent dans cette fameuse francophonie, restent en allégeance, vous avez des devoirs envers eux. Et le premier de ces devoirs, c'est de leur garantir que jamais, au grand jamais, un mouvement d'opposition, quelles que soient ses motivations, qui représente une diaspora chassée du pays comme le FPR et soit basé en Ouganda, ou qu'il soit francophone, si on peut dire, basé dans le pays voisin ou émergent d'un maquis du pays dont on parle, eh bien la France doit une garantie de sécurité. Son envergure diplomatique, son envergure de puissance est liée à ça. Eh bien, c'est tout bête, mais aujourd'hui, la question que je me pose, c'est relisons bien tout ce qu'ils nous ont dit, parce qu'ils ont parlé. L'article que mentionne Jean-François Dupaquier, il est tragique par bien des côtés, mais il est comme à chaque fois qu'un de ses officiels prend la parole, il nous dit quand même des choses, il nous dit des choses. Je vais prendre un exemple sur le général Queneau. Le général Queneau, dans des notes qui aujourd'hui ne sont plus confidentielles, même si elles étaient à diffusion restreinte, il nous dit « Le FPR est un mouvement communiste, enfin j'ai oublié les termes, c'est moi-même qui avais
remis. Khmer Rouge.
Oui, alors les Khmer Rouges, ça apparaît, mais il y a un moment donné où c'est encore mieux explicité. C'est-à-dire qu'il y a des postulats politiques sur lesquels il est notre ennemi et notre adversaire. Et là, à la limite, c'est la pensée guerre froide. Bon, le FPR, c'est un mouvement dont il faudra quand même peut-être un jour s'intéresser, au moment où il entre au Rwanda en 90, quel est son passé? Quel est son passé politique? Quels sont les mouvements avec lesquels le FPR est en lien? Parce que le FPR, les hommes qui le constituaient, cette rébellion armée, avait été en lien avec, j'en ai l'impression, beaucoup des mouvements de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est, des mouvements qui pouvaient être d'inspiration marxiste, des mouvements qui pouvaient être d'inspiration panafricaniste, tout un tas de mouvements qui étaient très connotés politiquement. Et n'oubliez pas que la chute du mur, c'est 89, l'offensive est là où nous avons forgé notre idéologie, c'est juste après, 6 mois, mais n'oublions pas de qui on parle. Le dossier Rwanda est tenu par des gens comme Mitterrand. Il ne faut pas oublier qu'ils sont nés au début du XXe siècle, qu'ils ont quand même fait un très très long détour par des mouvements très peu progressistes, et que pour le reste, il y a une délégation totale à l'armée. Les grandes décisions politiques sont arrêtées sur la manière de les mettre en œuvre. On délègue à la coloniale, avec le passé politique, historique, etc. Excuse-moi, Jean-François, je te laisse.
Non, je voulais juste sur cette question de terminologie. C'est très important la terminologie, parce que c'est une sorte de marqueur idéologique précis. Et là, c'est un marqueur de la théorie de la guerre révolutionnaire dont on vous parlait tout à l'heure. Vous savez, cette théorie qui était inventée pendant la guerre d'Indochine et malheureusement totalement mise en œuvre pour la guerre d'Algérie avec les conséquences humaines que l'on sait. Et l'armée française a inventé pour combattre le FPR le terme de Khmer Noir. Alors Khmer Noir, ça renvoie à ça. Ça renvoie d'abord à cette espèce de mobilisation idéologique des militaires. Vous savez, pendant la guerre d'Algérie, moi, j'ai interrogé des gens pour savoir comment est-ce qu'on appelait le FLN pendant la guerre d'Algérie. Ben, dans l'armée française, souvent, on les appelait les Viet. Hein, il y a toujours une continuité depuis la guerre d'Indochine dans l'ennemi intérieur. Hein, la définition de l'ennemi intérieur, c'est un élément très important pour comprendre aussi les liens entre l'armée française, l'idéologie de l'armée française et l'idéologie génocidaire. Sans dire que la France a créer l'idéologie génocidaire, il faut voir simplement les affinités et la façon, les écoles de pensée qui se sont mariées autour de tout ça. Et comme par hasard, l'armée française a inventé ce terme de Khmer Noir, mais comme par hasard, on trouve ce terme sous la plume de Stephen Smith, on trouve ce terme sous la plume de tous les journalistes qui ont défendu des positions révisionnistes sur le Rwanda pendant le génocide et après, hein, parce que c'est un terme qu'on voit encore réapparaître de temps en temps. Alors, c'était Khmer Rouge en 94 sous la plume de Queneau, mais c'est généralement Khmer Noir. Il a dû faire une petite faute de syntaxe là. Je voulais vous dire aussi, vous savez, on attend, nous on nous a habitués à l'école, on est allés tous à l'école de Marc Bloch, on pense tous que l'histoire n'est faite que de choses importantes. Mais parfois c'est le détail qui tue. Vous savez que le Rwanda était sous mandat de la LDN, donc ensuite sous mandat des Nations Unies. C'était un pays où la Belgique ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait. Et dans les années 50, la royauté rwandaise a essayé de se débarrasser de la tutelle et a demandé l'aide des pays communistes. Et il s'est créé à l'ONU une espèce de lobby très très fort pour soutenir la monarchie, bon on va l'appeler pour faire vite la monarchie Tutsi, c'est pas entièrement faux non plus, du côté des pays communistes. Et depuis cette époque, les Tutsis du Rwanda ont conservé cette étiquette de communistes dans les milieux les plus réactionnaires. Alors, c'est vrai qu'ils ont été parfois soutenus par des partis communistes, et c'est vrai que pendant très longtemps, à la fête de l'humanité en France, il y avait un stand de la diaspora Tutsi. Ça a toujours été exploité aussi par le régime, au nom justement de la défense de l'Occident, etc. On n'est plus tout à fait dans la guerre froide ici, mais vous savez, là-bas, on est encore en période de glaciation, donc on se sert toujours des mêmes schémas idéologiques. Mais quand je vous dis que parfois c'est la petite histoire qui fait la grande, rappelez-vous, par exemple, dans l'histoire de France, un phénomène fondamental sous Louis XIV, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Si on regarde bien les choses, et comme il y a eu un anniversaire il y a quelques années, vous avez dû le regarder un petit peu, pourquoi est-ce qu'on a révoqué l'édit de Nantes? Alors on pourrait peut-être se dire, c'est en fonction de grands ensembles, etc. Mais on pourrait aussi se dire, c'est parce que la Pompadour, qui était une nymphomane quand elle était jeune, et qui avait tourné Bigote, elle a réussi à convaincre Louis XIV que les protestants étaient des salauds et qu'il fallait les virer, hein, pour parler familièrement. Et c'est un peu vrai aussi. C'est un peu vrai aussi que l'influence de la Pompadour a été sans doute décisive pour révoquer l'édit de Nantes, qui a été une des grandes catastrophes de l'histoire de France. Dans l'affaire du Rwanda, la passion de Giscard d'Estaing pour la chasse, on n'en parlera jamais assez. Mais il faut quand même savoir que les premiers accords qui sont passés entre la France et le Rwanda, c'est parce que M. Giscard d'Estaing vient chasser le gros gibier dans le parc de la Caguera. Soi-disant, c'est un parc pour la préservation de la nature, sauf pour M. Giscard d'Estaing, qui a droit d'abattre buffles, lions, éléphants, tout ce qui passe. Et c'est à la suite de cet aimable clientélisme qu'on signe l'accord de défense entre la France et le Rwanda, accord de défense qui est une sorte d'emblème parce que personne ne le lit vraiment. Oui, assistance militaire.
Sinon tu
pardon, oui. Assistance militaire, mais qui est une sorte d'emblème parce que les gens ne le lisent pas et qu'on envoie l'armée française au Rwanda en 90, on dit accord militaire, mais on n'a pas vraiment regardé comment était le texte. Et tout ça, ça vient de la passion du Giscard d'Estaing pour la chasse. Donc parfois, il y a aussi des petites anecdotes. Bon, on va dire, si on parlait un jour de la passion de M. Jean-Christophe Mitterrand pour les bars, il y aurait beaucoup à dire, mais pourtant, malheureusement, ça a eu une sérieuse répercussion dans la politique africaine de la France et dans son surnom de Papa Madi, dans tout ce qui en découle. Donc, il ne faut pas non plus faire une montagne des détails, mais il ne faut pas non plus les oublier. Enfin, c'est mon opinion.
Juste, alors, du coup, reprécise ce qu'est accord militaire et accord de défense.
Donc, la différence entre les accords. Bon, les accords de défense, en gros, sont des accords qui, notamment, prévoient que si un État subit une agression, quelle qu'elle soit, l'autre État se porte à son secours. Enfin, c'est un accord qui prévoit que la sécurité de l'un est défendue avec l'aide de l'autre. L'accord, d'ailleurs le titre précis, accord d'assistance militaire de coopération, je crois, là tout d'un coup j'ai un doute, il prévoit tout simplement, l'accord de 75 prévoit tout simplement que la France apportera une aide au Rwanda pour la formation de la gendarmerie rwandaise. C'est quelque chose de
tout à fait exotique.
Pas plus en 75. Alors pour aller au bout, il y a quelque chose de très curieux. L'accord initial, il prévoit explicitement que par exemple les Français, a priori des gendarmes uniquement, puisqu'on forme la gendarmerie, qui viendront former les gendarmes rwandais, que ces Français, il y a un article 3 qui prévoit qu'en aucun cas ils ne pourront participer à des opérations de maintien de l'ordre. C'est-à-dire en gros à des raisons de police intérieure. Vous savez qu'on a beaucoup parlé dans la période 90-94, 90 décembre 93, de ces Français qui aidaient les militaires rwandais à des barrages, qui contrôlaient l'identité des gens, qui contribuent à mettre sur le côté, ce qui bien évidemment préfigurait un sort tragique des Tutsis, etc. Bon, il y avait un article 3 qui explicitement dissuadait la France de... En 83, pour une histoire d'uniforme, est-ce que les Français au Rwanda peuvent servir sous uniforme rwandais? On a relooké l'article 3. Et la personne qui a fait ça devait être très étourdie parce qu'au passage, elle n'a pas remis la clause d'interdiction de participer à des opérations de maintien de l'ordre. Donc à 83, cette notion, elle a disparu. Et puis juste pour terminer l'histoire, à partir de octobre 90, la France joue un rôle de co-belligérance sur le terrain dans le cadre du conflit entre l'offensive militaire du FPR qui vient de démarrer et le régime Habyarimana. Et on attend 92 pour que quand même quelqu'un au Rwanda se dise « Ouh là là les copains, on va beaucoup plus loin que l'accord qui nous donne un cadre légal, alors ce serait bien qu'on rectifie l'accord et qu'on mentionne à la place de gendarmerie rwandaise les forces armées rwandaises. » Et cet accord est signé en 92 sur un simple échange de fax entre Paris et Kigali et donne a posteriori une base légale à l'intervention. Et simplement pour terminer sur ces histoires d'accord et pour compléter ce que disait Jean-François, il y a un vrai quelque chose qui change dans la relation entre la France et le Rwanda au moment de Giscard d'Estaing. À ce moment-là, quand il signe cet accord, il signe des accords au Burundi et au Zaïre dans un très court laps de temps. Mon sentiment, c'est que avec Giscard d'Estaing, ce qui change, c'est que il y a une alliance entre la France et Habyarimana. Moi, personnellement, les circonstances de l'arrivée au pouvoir d'Habyarimana et la manière dont c'est vécu en France, quelques traceurs me font m'interroger sur un certain degré de connivence. Vous savez que la deuxième république d'Habyarimana remplace la première république de Grégoire Kayibanda, et qu'il y a vraiment un changement de régime important au Rwanda, un changement qui sera très important pour les événements futurs, puisque ce clivage restera un clivage très important. Mais je voulais juste vous rappeler ça pour vous dire, on n'a pas attendu jusqu'à 62 les premiers accords de coopération civile, simplement civile, de la France avec le Rwanda. Et on commence à poser des pions. Il y a un accord radiophonique, il y a un accord culturel. C'est des accords vraiment qui se remarquent à peine. Mais ce qui était important pour moi de préciser, c'est que bien évidemment, l'engagement français de 90 à 94, il n'est pas orphelin. Il a des parents, il a une histoire. Cette histoire, elle commence en 62. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, à la fin de l'année 63, et peut-être qui dépend jusqu'à 64, qu'on appelle le petit génocide, enfin des massacres de très grande ampleur et dont le caractère génocidaire est incontestable au Rwanda. Bon, ben, grâce au travail de quelqu'un qui s'appelle Olivier Timonier, qui a fait un travail de mémoire universitaire sur cette période, on a découvert à travers notamment un certain nombre, mais ça ne veut pas dire de manière exhaustive, de documents déclassifiés, que ben, la France, elle n'a pas plus réagi devant le petit génocide, elle a continué tranquillement sa coopération, et on trouve même la trace dans les documents officiels du Quai d'Orsay que, en gros, on n'est pas là-bas pour s'occuper de leurs affaires intérieures. Voilà. Donc on a laissé passer, on a fait la même chose en 90. Plus tard.
Oui, pour décortiquer les peintres de la France, en dehors des bouquins de Verschal, il y a aussi celui de Saint-Exupéry, enfin, qui explique bien aussi le système qui vient d'Algérie. Enfin bon, c'est pas la question que je voulais poser. Puisqu'on est allé jusqu'à la Serbie, je voudrais vous demander, par rapport à d'autres génocides possibles en Afrique, par rapport, par exemple, justement, puisqu'on parlait du système français, Si au lieu d'avoir au nord de la Côte d'Ivoire un francophone comme Paoré, il y avait eu une rébellion anglophone ou qui soit contre la France-Afrique, et qu'est-ce que vous pensez de Gabo, de son discours raciste, de ses milices, de ses médias qui appellent au meurtre, etc. Et puisqu'on parle des politiques françaises, de certains socialistes français, puisqu'il est toujours membre de l'international socialiste, comme Emmanuel ou d'autres qui l'ont défendu à la radio au moment où il y avait des trucs indéfendables de ces milices, des meurtres de gens sous le prétexte qu'ils étaient soit parce qu'ils étaient musulmans, soit parce qu'ils étaient d'une ethnie du Nord et qui venait du Burkina et du Mali. Donc la généralisation des possibles.
Eh bien, ce qui s'est passé dans l'armée française après le Rwanda, c'est qu'il y a eu un débriefing. C'est-à-dire qu'un jour, il y a eu une réunion, on a entre hauts responsables de l'armée française, et on s'est dit, où est l'erreur? Alors, je le sais parce que j'ai posé la question à Alain Richard, il m'a dit qu'effectivement, il y a eu, à son avis, à sa connaissance, un débriefing sur cette affaire, mais il n'a pas pu me donner le PV du débriefing, je regrette, ça aurait été vraiment intéressant. Non, ce qui est sûr aussi, c'est que le Rwanda a quand même servi un petit peu de leçon et qu'on a été plus prudent en Côte d'Ivoire, malheureusement, sur le sang des Rwandais. Et la meilleure preuve, c'est qu'on n'a pas toléré en Côte d'Ivoire qu'on abatte comme ça un supposé bandit de grand chemin, alors qu'on a fait 100 fois pire, enfin l'armée française a fait 100 fois pire au Rwanda, parce que tout ce qu'on dit sur des viols, des exécutions sommaires de Tutsis par des militaires français ou sur ordre d'un militaire français, tout ça, c'est quand même maintenant, ça commence à être assez bien documenté. Et donc, on voit bien que peut-être pour d'autres raisons, que pas forcément pour des raisons déontologiques, mais Alio Marie n'a pas accepté que ça continue ou que ça continue à déraper en Côte d'Ivoire avec des hommes qui avaient quand même déjà agi au Rwanda et qui peut-être n'avaient pas changé de méthode. Alors, je pense que si on s'est trouvé devant un conflit en prétendument de précaré contre le monde anglophone, on aurait quand même fait plus attention. Parce que, encore une fois, l'armée française n'est pas un bloc. Hein. Il y a des gens qui sont intelligents, comme ailleurs, qui ont compris qu'il y a une énorme bourde, mais c'est d'un certain côté aussi, l'armée c'est une église, donc on règle ses comptes en famille. On n'en parle pas à l'extérieur, mais on en tient quand même peut-être un peu compte. Donc il me semble que cette espèce de deuil impossible des responsabilités françaises, ça pèse extrêmement lourd sur la suite. Ça pèse lourd déjà sur l'affaire de Côte d'Ivoire, mais tant qu'on n'aura pas fait ce deuil, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas reconnu les fautes et compris les fautes et tiré tous les enseignements des fautes, eh bien on vivra toujours mal cette histoire on les verra en tout cas très mal dans tous les rôles que l'armée française peut avoir en Afrique.
Même si l'armée française n'a pas fait de meurtre, le silence et même la complicité de certains politiques français sous prétexte que Gabon a leur couleur, par contre les milices ont tué plein de gens, en dehors même des deux journalistes français, et surtout ils ont tué plein de gens, y compris de bon, un comédien, enfin... Et sur des bases racistes, quoi. Bon, là, c'est pas l'État français, mais c'est le silence de certains politiques quand leurs intérêts sont liés à quelqu'un qui appartient à leur scène internationale ou des trucs comme ça.
Oui, mais les relations entre, par exemple, Chirac et Gbagbo sont pas du tout celles de Mitterrand avec Herbert Imada. Hein.
Oui,
les premières, c'est une relation de connivence. Et là, c'est une relation d'exaspération.
Compaoré est un copain.
Compaoré, c'est un autre problème.
Oui, mais c'est l'opposant, quoi. C'est lui qui a formé les... On a parlé de la Fermi. Il passe la Côte d'Ivoire. On a parlé d'autre chose. On a parlé du système français. Je parle du système français.
Bonsoir. Je suis arrivé avec plus d'une heure de retard, donc peut-être que les questions que j'ai été posées, vous avez déjà abordées. En fait, j'aurais aimé, si vous ne l'avez pas déjà fait, et si ça n'accable pas trop les autres, une recension des manifestations de l'implication française au Rwanda. Et c'est le premier point. Le deuxième point avait trait à l'opération turquoise, exactement. Si la lumière était faite dessus, en quoi a-t-elle consisté, officiellement et surtout officieusement? Et la troisième question avait trait à la relation de la France au Rwanda aujourd'hui. Est-ce que finalement c'est devenu une zone anglophone avec des partenaires essentiellement anglophones comme le craignaient certains membres de du cercle présidentiel français? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Merci.
C'est tout.
Bon, pour le premier point de votre question, j'avoue que c'est un peu délicat. C'est pas tant que... Ça a été en partie résumé, notamment quand Bruno, au tout début, a résumé un certain nombre des conclusions de la CEC. Mais c'est vrai que les différentes manifestations, je vais vous dire, vous voyez l'ouvrage qui est posé devant Bruno, qui est un ouvrage parmi beaucoup. L'horreur qui nous prend au visage, c'est donc le rapport qui a acté toute la session de la commission d'enquête citoyenne sur le Rwanda qui s'est tenue en 2004. C'est extrêmement bien classé, ordonné. Vous avez vraiment une des recensions les plus récentes. De ces différentes manifestations, qu'elles soient militaires, politiques, diplomatiques, voire médiatiques. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on est obligé de renvoyer vers les livres. Parce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est extrêmement... Jean-François aura certainement, pour la troisième partie de votre question, quelque chose de plus pointu que moi à vous répondre. Je l'espère, tout du moins, je le vois sceptique. En tout cas, en ce qui me concerne, je me sens plus à l'aise. Et peut-être tu m'en voudras, mais tu peux venir aussi sur le deuxième point. Bon. Turquoise, c'est un point extrêmement important, intéressant, central. Ça ne résume pas tout quand on s'intéresse au rôle de la France au Rwanda, puisque une grande partie du mal était déjà fait. Du mal dans la complicité de la France avec le Rwanda, et puis du mal dans ce qu'a été le génocide. Quand on parle de Turquoise, dont le mandat officiel date du 22 juin 1994, eh bien malheureusement, la quasi-totalité de la population Tutsi se trouvant au Rwanda est déjà exterminée. En revanche, Turquoise est intéressante parce que c'est la seule période où, de manière aujourd'hui établie, des militaires français, des protagonistes français mandatés par leur État, se trouvent présents sur le territoire du Rwanda alors que le génocide est en cours, ce qui n'est pas complètement achevé. Alors, c'est difficile de résumer Turquoise pour une raison, c'est qu'il y a eu plusieurs Turquoises et qu'il y a eu plusieurs armées françaises au Rwanda pendant Turquoise. Il y a eu plusieurs turquoises parce que vous avez par exemple ce petit livre qui vient de sortir qui vous racontera une opération turquoise. Ça s'appelle « Les blessures incurables du Rwanda ». L'auteur est un homme que j'avais eu au téléphone à un moment, il avait pensé aux arènes pour éditer le livre. C'était pas un livre qui nous intéressait d'éditer, mais c'est un militaire de réserve, docteur, qui était réquisitionné au moment du début de turquoise pour aller servir et soigner. Lui s'est retrouvé dans un turquoise qui était ouvertement humanitaire, où la question qui se posait était davantage morale, c'est-à-dire quand vous laissez exterminer à la machette, à la grenade et à la kalachnikov 1 million d'innocents pendant 100 jours, et que lorsque le dernier a fini d'expirer, vous vous portez au secours d'une masse de près de 2 millions de réfugiés, quand on prend l'ensemble des pays de répartition, mais qui se trouvent avoir en son sein la totalité des gens qui ont exterminé, et que c'est cela que vous allez soigner, même si c'est tragique, une forte concentration humaine avec des gens qui tombent comme des mouches du choléra, ça pose quand même une question politique. Je ne pose pas cette question au docteur Roland Noël, qui savait sans doute à peine où il arrivait, dans quel contexte, et qui a soigné, comme un médecin doit soigner. Mais là, ça pose une question politique sur le rôle de la France. Il y a d'autres turquoises. Il y a l'opération turquoise, par exemple, qui a commencé dès les premiers jours, et on a même des soupçons que la France ait pénétré au Rwanda avec certains éléments précurseurs, voire certains CRAPS ou unités occultes, c'est-à-dire non officiellement recensées sur le terrain, avant même le 22 juin, puisque de toute façon, les forces étaient prépositionnées à Goma, côté Zaïre, et attendaient le feu vert de l'ONU. Mais un certain nombre de témoignages laissent à penser que c'était tellement urgent tout d'un coup d'aller aider les gens au Rwanda, alors qu'on les avait laissés mourir pendant 2 mois et demi dans la plus totale indifférence, que là, tout d'un coup, on s'est précipité, et que, comme le disait François Mitterrand à l'UNESCO quelques jours auparavant, c'est une question d'heures, de jours, d'heures. Et là, ce turquoise, je vous résumerai quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'épisode de Bicécéro, un épisode qui, pour la France, est incontestablement une aiguille dans le pied qui pourra se traduire par une blessure, qui elle-même pourra se traduire par une gangrène, qui elle-même pourrait se traduire de manière très préoccupante. Et Bicécéro, qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre que on sait porter ce qu'on peut savoir par d'autres sources. On sait porter à travers l'opération turquoise au secours des tueurs. Au secours des tueurs. Et non pas au secours des victimes. Mais on a fait pire que ça. Ça, on le savait au fond parce que les effets mécaniques de l'opération turquoise, ils ont bénéficié aux tueurs. Ça a sanctuarisé une zone dans laquelle ces tueurs ont pu se réfugier. Ne pas avoir à rendre de compte, ne pas être arrêté par exemple par le FPR en étant la monde qui aurait pu leur arriver ensuite, passer au Zaïre et surtout garder le contrôle de leur bouclier humain, à savoir ces masses de paysans, de civils, de personnes qui avaient été entraînées à commettre le génocide, à devenir son bras armé et qui ont ensuite été un bouclier humain qui servira encore pendant très longtemps. Mais on n'a pas seulement fait ça. Il semblerait qu'on ait rendu possible l'extermination des derniers rescapés. Voilà. Et ça se joue à Bicécéro, entre le 27 et le 30 juin 1994. Et je terminerai, en laissant Jean-François compléter s'il le souhaite, en disant que il faut là, Jean-François l'a dit, les militaires français ne sont pas tous faits au moule, et c'est heureux, qu'en tout cas ce moule ne soit pas celui de la coloniale, d'un premier PIMA par exemple, qui a joué un rôle si important au Rwanda, ainsi que les régiments étrangers parachutistes, mais il y a d'autres militaires. Et au fond, moi je dirais que pour comprendre ce qui s'est réellement passé, pour cerner les nuances, les niveaux de gris, parce qu'il y a eu des niveaux de gris, eh bien au fond, les premiers alliés aujourd'hui de ceux qui cherchent la vérité vont être certains militaires, pas forcément tous. Et il semble, notamment depuis qu'a été rendu public sur France Culture l'an dernier le témoignage d'un ancien adjudant-chef du GIGN, il semble que ce qui a permis d'inverser une partie de la machine dans certaines zones du Rwanda où est intervenu turquoise, eh bien, c'est qu'en fait, certains militaires français ont compris ce qu'on n'avait pas voulu leur expliquer et qu'ils se sont mis en position d'agir pour gripper la machine, autrement dit, pour contourner les ordres, voire y désobéir, afin que Turquoise serve réellement, indépendamment des biscuits vitaminés qui étaient donnés aux assassins, à servir les derniers Tutsis, qui notamment dans ce foyer de résistance qu'avait été Bicécéro, les quelques dernières centaines qui étaient parvenues à survivre pendant les 80 ou 90 jours précédents. Ça, on le doit à des militaires français. Et il y a effectivement eu plusieurs armées françaises au Rwanda, ce qui fait que, de la même manière qu'il est délicat de parler de la France, voire même de la République française, il est devenu délicat de parler de l'armée rwandaise. Et ça, c'est un point sur lequel la justice, pas seulement, mais la justice peut jouer un rôle, c'est d'isoler les responsabilités individuelles. Et de préserver, si j'ose dire, ce n'est pas que ce soit mon souhait prioritaire, mais ça peut avoir un sens, de en tout cas préserver les institutions, si tant est que ces institutions fassent le travail de démasquer en leur sein les personnes qui les ont rendues complices ou co-auteurs d'un génocide.
Oui, juste un mot sur Bicécéro. Vous savez que les journalistes qui accompagnaient les militaires français l'ont fait remarquer que la RTLM avait déménagé et émettait depuis la zone turquoise. Et qu'il fallait la faire taire, évidemment, parce qu'il n'y avait plus aucune incertitude sur le rôle de la RTLM à ce moment-là. Tout le monde en avait suffisamment parlé et qu'on leur a répondu que ce n'était pas dans le mandat de l'opération turquoise. Alors, c'est quand même extravagant, parce que on peut se demander quel était le mandat de l'opération turquoise si ce n'est pas un mandat humanitaire. Mais en tout cas, ne pas faire taire une radio extrémiste, bon, on s'en sert à quoi? Alors, sur la dernière question sur, sur le côté, disons, c'est un peu un débat franco-français de savoir si le Rwanda est francophone ou pas, parce qu'il est vraiment, comme je disais tout à l'heure, Madiba, il est rwandophone, plus que jamais. Et j'avoue que moi, ça m'est un peu indifférent de savoir si on parle plus français ou anglais au Rwanda. J'essaie de pratiquer les deux langues. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais au Rwanda en janvier 95, j'avais visité une imprimerie qui s'appelle la Régie de l'imprimerie scolaire. Et j'avais découvert que cette imprimerie publiait des livres en français pour les écoliers rwandais du secondaire. Ça se passait de façon très simple. Les films étaient faits en France et puis ils se contentaient de les imprimer. Et quand j'ai vu cette imprimée, elle était en partie dévastée. Pourquoi est-ce qu'elle a été dévastée? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle était sur la ligne de front pendant un mois entre le FPR et les phares. La deuxième raison, c'est que comme c'était une imprimerie d'État, il n'y avait pratiquement pas de Tutsi et il y a énormément d'interamoués. Presque tout le monde avait fui en emportant quelques petits morceaux des machines. Donc la plupart des machines étaient en panne. Alors j'ai été au ministère de la Coopération à Paris, j'étais plein de bons sentiments et j'aurais dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait pas envoyer quelqu'un pour réparer ces machines pour qu'ils puissent recommencer à imprimer des manuels en français? Et j'avais même amené un document parce que j'avais fait des photos dans l'imprimerie, j'avais demandé qu'on fasse un rapport complet sur ce qu'il fallait. Il fallait pas grand chose. Il fallait un imprimeur qui s'y connaisse un petit peu, qui amène une boîte à outils de boulons, etc. Et on m'a dit, personnellement, donc je suis témoin direct de ce que je vous raconte, on m'a dit, rue monsieur, à l'époque c'était monsieur Devray, je sais plus comment il s'appelait celui-là, c'était l'urologue, qui était secrétaire d'État à la coopération, Bernard Debré. On m'a dit, monsieur, est-ce que ces machines à imprimer sont françaises? Ah, je dis non. Ce sont des machines allemandes, ce sont des Heidelberg. D'ailleurs, la France ne fabrique pas de machines à imprimer. Alors, on m'a dit, en ce cas-là, on ne peut rien faire. Bon, eh bien, on ne pouvait pas réparer cette imprimerie. Mais le lendemain de cette visite sur place, je voyais arriver deux Antonov affrétés par les cellules d'urgence du Quai d'Orsay pour amener des cahiers d'écoliers pour ces pauvres enfants rwandais qui n'avaient plus de cahiers. Mais moi, j'avais visité une autre imprimerie au Rwanda qui fabriquait des cahiers d'écoliers. J'avais réussi à remettre en route une magnifique rotative et qui fabriquait des tonnes de cahiers d'écoliers. Alors, on avait trouvé de l'argent pour envoyer 70 tonnes de cahiers d'écoliers au Rwanda, mais on n'avait pas les quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de francs, c'était encore des francs à l'époque, pour réparer une imprimerie qui imprimait des manuels en français. Donc, il faut peut-être de temps en temps oublier le débat idéologique sur la francophonie pour avoir un débat pratique. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut pour que les écoliers puissent aussi apprendre le français? Je dis aussi apprendre le français, et non pas seulement apprendre le français.
Mais la question avait plus trait aux relations entre la France et le régime de Kagame aujourd'hui que sur les relations ou l'ère culturelle rwandaise, en fait.
Ah bah écoutez, on va poser la question directement au gouvernement rwandais, hein, parce que ce n'est pas la réaction très facile, et certains s'évertuent à les rendre encore plus compliquées, hein, ça c'est clair. Mais... je suis pas sûr que c'est une telle répercussion sur le fait qu'on parle plus anglais ou moins anglais. Je pense pas que ce soit un lien totalement direct. Je pense que le fait que la France avait arrêté quasiment cette coopération avec le Rwanda a été bien plus dommageable aux Français que les seules relations diplomatiques entre la France et le Rwanda, par exemple.
Monsieur, il faut que vous avanciez parce que le micro ne va pas aller jusqu'à vous. Je suis désolée.
Oui, tu as signalé un excellent livre sur la colonisation, celui de Steve Lindquist, Exterminer toutes ces brutes. Je voudrais juste simplement en signaler un autre, celui d'Olivier Lecour au Grand Maison, Coloniser, exterminer, que je trouve très fort et qui va bien dans le même sens.
Absolument.
Et qui est beaucoup plus administratif. Il devrait intéresser Jean-François Dupaquier. Il est beaucoup plus, je veux dire.
Je sais pas tout lui dire, pas celui-là. On va le lire.
Voilà. Juste pour le signaler.
Ouais. Il est récent.
Il est
chez Fayard, non?
Comment?
C'est pas chez Fayard, non?
Chez Fayard.
Ouais.
Et attends, si tu permets. Je voudrais quand même mentionner la bibliographie imposante de Jean-Paul Gouteux qui vient de prendre la parole, en particulier son dernier ouvrage en date, La Nuit rwandaise, édition d'Agorno ou L'Esprit Frappeur, coédition Izuba. Et je pense qu'on ne serait pas nombreux sans ces livres à connaître cette problématique.
D'autres questions peut-être? Monsieur Diop, puisque vous avez répondu à Monsieur Smith, oui. Non? D'autres questions? Il faut vous avancer, s'il vous plaît.
Ah, ah ben, je sais pas, tu nous prends des bottes, là.
Conclusion, alors.
C'est ton modérateur.
On a encore un peu de temps, hein, si vous avez...
oui, tu vas le rentrer.
C'est des grands dons. Claude, vas-y.
Il y a des règles.
On rigole.
Pourquoi
c'est obéi aux règles? Le nom de chambre, il m'a peut-être intérieur.
Il m'a
est-ce que vous pourriez nous parler un peu du point de vue de Kagame et de du Rwanda actuellement?
tu veux répondre?
C'est vraiment la question.
Moi, personnellement, je m'intéresse au rôle de la France dans le génocide au Rwanda, qui s'est achevé dans le courant du mois de juillet 1994. Je n'ai aucune compétence pour vous parler du Rwanda aujourd'hui, de son régime politique, voilà, mais comme tout un tas d'autres thèmes qui sont corrélés au rôle de la France, mais là, moi, sur ce principe, je suis très clair, je n'ai des choses à vous apporter, si j'ose dire, que sur ce qui est mon sujet d'étude, et qui est limité de cette manière-là. Pardon ?
Ah, ça, je peux en parler un peu, si vous voulez.
Un peu ce que demandait monsieur, c'est la relation entre les deux États, c'est ça que tu veux dire, Claude ? Bah, les relations entre les deux États... je veux dire, je pense qu'on a tous les mêmes éléments qui sont très rares. Savoir qu'à la dernière commémoration, enfin pas la dernière, c'était
la
quoi L'avant-dernière, 2004, quand Paul Kagame a fait une allocution à l'occasion de la célébration officielle du génocide, il n'a pas mâché ses mots en parlant du rôle de la France et en rappelant simplement que quand on avait été au-delà d'un certain degré d'ignominie, le minimum c'était au moins de présenter des excuses ou de ne pas parler avec arrogance pendant cette allocution. Enfin, je vous renvoie à l'internet pour les mots exacts que je n'ai pas en tête. Pendant cette intervention, M. Renaud Muselier, dont j'ai oublié quel était son degré exact, mais qui devait être ministre délégué aux Affaires étrangères, Renaud Muselier s'est levé, a quitté le pays. Pour le reste, moi, sur cette question que posait monsieur, je pense que là, il faut en rester aux évidences. Comment une relation entre deux États, quels qu'ils soient, pourrait être purgée, pourrait être sereine s'il y a un génocide entre ces deux États? Donc la question ne se pose même pas. La France n'y a pas joué un rôle dans le génocide, il n'y a d'ailleurs pas eu pour elle de génocide, mais le problème c'est que le Rwanda, lui, il vit depuis 12 ans avec ce génocide qui a été commis. Bon, et la seule chose dont je suis bien incapable d'interpréter, c'est qu'il semble que l'actuel ambassadeur de France au Rwanda, je crois qu'il s'appelle M. Decherf, a posé une plaque commémorative, me semble-t-il, en 2004, peut-être en 2005, une plaque commémorative symboliquement importante, quand je dis importante, à la mesure de la dénégation jusque-là complète, jusque-là totale, des autorités de la République française, dans le rôle qu'elles avaient pu jouer. Cette plaque rend hommage au personnel des différentes administrations françaises au Rwanda, ambassades, missions de coopération, centres culturels français, lesquels... qui travaillaient parfois depuis plusieurs dizaines d'années pour les autorités françaises. Je vous renvoie notamment au livre de Vénus Kaimae, Rwanda, les coulisses du génocide, aux éditions d'Agorno. Eh bien, ces personnes ont été abandonnées aux massacreurs, alors même que les premiers avions qui ont quitté Kigali, affrétés par l'armée française, eh bien, véhiculaient en leur sein les principaux organisateurs du génocide. Alors, je suis bien incapable de comprendre si l'action de M. Decherf témoigne de schizophrénie d'État, où il faut ménager d'un côté et rester sur la guerre froide de l'autre, si un ambassadeur de France a une marge de manœuvre qui lui permet de faire des petits gestes sans avoir eu forcément l'imprimatur du Quai d'Orsay, ça j'en sais foutrement rien, mais ça méritait quand même d'être signalé parce que c'est une goutte d'eau dans le désert, mais elle existe.
Je vous réponds à ce sujet parce que moi j'étais au Rwanda au mois de juillet dernier et donc j'ai eu la curiosité d'aller aux cérémonies anniversaires du 14 juillet à l'ambassade de France. Et d'abord, je peux vous dire que c'était une manifestation qui était extrêmement courue parce que M. Decherf a un langage qui est quand même relativement clair là-dessus. Il a présenté ses propres excuses, pas celles de la France, parce que c'est pas lui de présenter celles de la France, ce serait quand même un représentant à haut niveau de l'État français lui-même et pas seulement à son ambassadeur. Visiblement, il n'est pas encore mandaté pour aller jusque-là. Je peux vous dire qu'il est marié avec une femme burkinabé d'origine, c'est pas si fréquent non plus. Encore diplomatique, d'avoir une femme noire quand on est en ambassadeur de France en Afrique. Et je vous dirai ensuite qu'il a fait un discours dont les deux ou trois premières minutes étaient en Kinyarwanda et ça a suffoqué l'auditoire parce que c'est la première fois qu'ils entendaient un ambassadeur de France commencer un discours en Kinyarwanda. Alors c'était peut-être phonétique, je ne suis pas assez compétent pour le savoir, mais ça a eu beaucoup de succès, c'était bien compris.
Et visiblement, l'ambiance était assez décontractée, et s'il ne dépendait que l'ambassadeur de France au Rwanda, les choses iraient beaucoup mieux.
Mais j'ai envie juste de compléter, puis peut-être de revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous donner un exemple. En lisant un certain nombre de documents émanant des archives françaises, je suis tombé sur un certain nombre de notes, de courriers signés par un certain Dominique Pin. C'est pas quelqu'un de majeur dans la chaîne de décision, c'était le conseiller de Bruno Dolé, enfin, je sais plus quelle fonction il occupe exactement, aux affaires africaines et malgaches du Quai d'Orsay ou à la cellule Afrique. Bon, il se trouve que M. Pin, je l'ai retrouvé incidemment comme premier conseiller de l'ambassade de France à Abidjan quelques années plus tard, nous étions dans la période. Bon. Et ce que je veux dire à travers ce que Jean-François vient de raconter de cet ambassadeur qu'il a lui-même côtoyé personnellement, c'est que de toute façon, il ne faut pas rêver. Tant que vous faites des politiques, vous pouvez changer de pays, mais que vous les faites avec les mêmes individus, avec la même mentalité, la même culture, au fond, les choses ne changent pas. Donc, on fait Marcoussi, c'est-à-dire on règle le sort de la Côte d'Ivoire en région parisienne. On a des pilotés à Arusha, je ne veux pas faire de symétrie, hein, parce qu'il faut se méfier de la symétrisation pure, Rwanda-Côte d'Ivoire. Simplement,
non,
quand je parle. Non, mais je ne dis pas que vous l'avez dit, hein, c'est moi qui fais une proposition oratoire par rapport à ce que je dis. La présence militaire française en Côte d'Ivoire, elle est institutionnelle, institutionnalisée. Enfin, rien que ça, il faut s'interroger. Vous imaginez des pays d'Afrique dans lesquels stationnent à plein temps des bataillons entiers de l'armée française. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que moi je veux espérer que monsieur de Cherche, il y en aura bientôt 5, il y en aura bientôt 10, et que progressivement ils vont remonter la chaîne de l'organigramme et qu'ils vont remplacer des gens comme monsieur Marlot, qui était l'ambassadeur au moment où le génocide a démarré, mais peut-être pire encore, monsieur Georges Martre, qu'on avait surnommé, il était ambassadeur de France pour Rwanda, mais on l'avait surnommé l'ambassadeur du Mutu Power auprès de la France, parce que le rôle qu'il jouait était le rôle d'une pure marionnette des principaux dignitaires de la CASU, autrement dit des préparateurs du génocide. Donc effectivement, ce changement, il ne faut pas croire qu'à la Baule en 90, parce que François Mitterrand a lu un discours préparé par Éric Orsenna, il ne faut pas croire qu'il y a eu un changement du rapport de la France avec l'Afrique. Il ne s'est rien passé à la Baule. C'était des mots, c'était du vent, et on l'a bien vu, puisque trois mois plus tard, on envoyait les premiers militaires français au Rwanda. En revanche, des actes comme ceux bien racontés, de résumer Jean-François, ça n'est encore pas grand-chose, mais éventuellement ça peut témoigner d'un changement des effectifs et donc possiblement d'une politique.
Merci. Alors, je vais remonter un peu en arrière. si vous êtes mieux que dans le sujet. En fait, j'ai lu des éléments sur lesquels j'ai pas pu avoir totalement toute information sur la révolution de 59, sur le changement de président d'Abiarimana, de Kayibanda à Abiarimana.
Ça, c'est plus tard. 73.
C'est plus tard, 73. Et je sais que lors de la préparation du génocide, de la préparation idéologique du génocide, on faisait allusion à la révolution de 53 et à 73, et on présentait ce qui allait suivre, ce qu'on voulait comme un aboutissement. Et j'aimerais savoir concrètement ce qui s'est passé dans ces deux révolutions et pourquoi on y a fait allusion comme ça. Donc c'est le premier point. Le deuxième point a trait à une autre opération française, avant Turquoise, qui s'appelait l'opération Norois. Mmh. Et j'aimerais savoir quelles ont été les répercussions concrètes, notamment au niveau de la guerre et de l'issue de la guerre entre le FR et les FAR. Concrètement, savoir si sans cette opération, les FAR auraient pu gagner du terrain, et le FR aurait pu gagner du terrain décisivement, et arrivera-t-on pour empêcher la tenue de la perpétration du génocide. Merci.
Je commence sur 59. Alors, bon, c'est vrai que le génocide, il est vraiment décidé, non pas en 90, mais peut-être en 92 ou 93, mais il est en gestation avant, c'est-à-dire ça n'arrive pas tout seul. L'écart d'identité ethnique, par exemple, ça c'est un vrai problème, parce que il faudrait en dire un mot. L'écart d'identité ethnique, c'est un peu comme le mot juif sur la carte d'identité française dans les années 40-44, ça n'est pas indifférent, c'est-à-dire on ne peut pas dire c'est juste une lettre sur une carte d'identité, on sait tout ce qui va avec. La ségrégation, c'est tout ce qui va avec. Quand on interdit aux juifs français en 1940 d'exploiter un petit commerce, donc on les prive quasiment de ressources, on ne peut pas ne pas imaginer ce qui va avec. Et les cartes d'identité ethnique, simplement, elles sont beaucoup plus anciennes puisqu'elles ont été créées dans les années 30. Alors, moi j'ai interrogé les Rwandais sur ces cartes d'identité ethnique et demandé comment est-ce qu'on les avait attribuées à cette époque-là. Et visiblement, c'est assez confus parce que ces cartes étaient attribuées par les sous-chefs de l'administration, donc de la tutelle belge, en fonction de critères qui étaient imposés par les Belges, mais apparemment qui n'étaient pas totalement écrits. Donc, on suppose qu'ils étaient désignés comme Tutsi tous ceux qui possédaient plus que 10 vaches. Hein? Ça, c'est la théorie. Mais ce n'était pas du tout comme ça que ça se passait concrètement. Concrètement, comme les Belges privilégiaient les Tutsis, des gens qui avaient un petit peu d'argent pour soudoyer le sous-chef pouvaient aussi obtenir une carte d'identité Tutsi. Et des Tutsis pouvres pouvaient ne pas l'avoir et pouvoir être rétrogradés définitivement comme Hutu, alors que c'était des catégories qui sont beaucoup plus complexes dans la période précédente, qui n'ont pas le même sens, en tout cas qui n'ont pas un sens tribal au sens où, ou ethnique au sens où on l'entend. C'est pas facile, hein, et visiblement c'est dommage, mais il n'y a pas eu d'enquête systématique qui a été menée sur cette question, et malheureusement tous les témoins de cette époque qui sont en train de disparaître, le sous-chef que j'ai interrogé, dans un an ou deux il sera mort malheureusement. Donc il y avait aussi un autre aspect de ça, c'est qu'il y a eu une baisse de qualité du personnel belge de la tutelle, car les premiers Belges de la tutelle, ça paraît à peu près clair, étaient capables de se repérer dans les lignages, non pas les ethnies ou les tribus, mais les lignages, c'est-à-dire il y avait beaucoup plus de lignages que ça, il y en avait 19 il me semble. C'est un système qui est horriblement compliqué pour nous et qui paraissait bien compliqué parce que bon, il fallait simplifier, hein. L'idée de catégoriser Hutu et Tutsi, c'est une façon de simplifier l'administration. C'était d'abord ça, c'était pas en 1930 l'idée de préparer un génocide, pas du tout. Et c'est très mystérieux parce que vous voyez au Burundi par exemple, apparemment les Belges ont dû faire la même chose, mais j'ai pas encore trouvé un seul Burundais qui m'explique ce qui s'est passé au Burundi et pourquoi au moment de l'indépendance on a supprimé les cartes d'identité ethnique au Burundi, semble-t-il. J'en suis même pas sûr, je sais pas à quel moment elles ont disparu, si elles sont vraiment apparues. Parce que tout ça, ça fait partie du domaine du cachet. Moi, en tant que journaliste, avant 1994, j'avais demandé à des amis Tutsi, réfugiés en France, de montrer une carte d'identité ethnique pour que je la publie dans mon journal, l'événement de jeudi. Aucun ne l'a jamais fait, parce que c'était considéré comme quelque chose d'assez honteux, et donc c'était du domaine vraiment du cachet et du secret. Et ce domaine du cachet et du secret, ça a introduit une grande complexité aussi dans les comportements et dans la médiatisation des comportements. Mais en même temps, tout ceci étant dit, il n'empêche que avoir maintenu ces cartes d'identité ethnique dans un processus de modernisation politique n'était pas sans conséquence, comme on l'a vu. Il y avait forcément des conséquences de plus en plus discriminatoires et de plus en plus aberrantes, parce que ça n'était pas des catégories vraiment raciales ou ethniques, mais c'était des catégories politiques, et que ces catégories étaient devenues intangibles. Alors, ceci dit, on va encore ouvrir des parenthèses. Vous savez que d'après le dernier recensement d'avant le génocide, je crois celui de 91, il y avait théoriquement 8,7% de Tutsi au Rwanda. Il y a des démographes qui se sont penchés sur la question et ils ont publié dans la revue Population le dernier numéro, que je vous invite à lire, une étude très complète là-dessus, et ils ont abouti à la conclusion qu'on avait sous-estimé de 40% le nombre des Tutsis. Parce que d'abord, il y avait une stratégie d'évitement évidemment de la population, on essayait de changer de carte d'identité, où on n'osait pas déclarer qu'on était Tutsi, etc. Donc, tout ça est vraiment très très confus et très complexe, sauf sur le plan politique, où là on voit bien que c'est la construction d'une politique. Ces cartes d'identité prétendument ethniques, ce sont des cartes d'identité politiques. Et cette politique, elle évolue progressivement vers le génocide, dans le cadre d'une simplification du système, et puis de l'utilisation de boucs émissaires pour justifier toutes les faiblesses du régime, parce que le régime Habyarimana, il faut le dire quand même, d'une certaine façon, il est presque sauvé par l'attaque du FPR, parce qu'il est sur le point de s'effondrer en 90, au moment où le FPR attaque, et il trouve dans cette attaque un moyen de fédérer toute une série d'énergies pour dire il faut se serrer les coudes et il faut résister à l'ennemi traditionnel, le Tutsi accapareur, brutal, violent, militariste, etc. Tout ceci, bon, ça mériterait beaucoup plus de développement, mais tout ceci pour dire que le processus qui va des années 50, 59 jusqu'au génocide, il y a des avancées, il y a des reculs. Quand Habyarimana prend le pouvoir, il apparaît comme un leader moderne qui refuse l'ethnisme par rapport au régime Kayibanda qui s'est complètement vautré dans la chasse aux Tutsis, dans les écoles, etc. Et puis, chaque fois que le régime enregistre des gros échecs, eh bien, on revient à ces méthodes de stigmatisation de l'ennemi. Ça mérite des longs développements qu'on fera, j'espère, un jour sur les origines idéologiques et de la propagande du génocide. Et vous avez raison de dire que ça remonte à beaucoup plus loin, Simplement, c'est comme quand on plante une graine, on ne sait pas franchement si elle va pousser, mais au moins on l'a plantée dans les années 50, mais les choses auraient pu évoluer tout à fait différemment. Ça me permet de revenir à la responsabilité de la France. Il y a les responsabilités techniques, il y a les armes qu'on livre, les armes qu'on donne, les embargos de l'ONU qu'on viole en relivrant, l'aide technique qu'on apporte, mais c'est aussi, je dirais, la responsabilité la plus lourde n'est pas celle des militaires, mais bien celle des politiques, parce que on soutient jusqu'à la démesure le régime Habyarimana, qui est un régime terriblement fragilisé, et on le maintient en place contre vents et marées jusqu'en 1994, en lui permettant d'organiser le génocide. Et on ne peut pas nous dire qu'on n'est pas au courant qu'un génocide se prépare, parce qu'entre militaires français et rwandais, évidemment, il y a une fraternité d'armes qui les amène à savoir beaucoup de choses, et le mot génocide est parfois utilisé par les militaires français, déjà à cette époque-là. Donc, cette responsabilité, c'est d'avoir poussé dans le mauvais sens cette politique au Rwanda. On aurait pu imaginer que la France pousse dans l'autre sens, qu'on oblige réellement à Abiyahimana à des concessions, qu'on oblige vraiment à l'ouverture politique, qu'on essaye d'éviter de les encourager à cette espèce de haine politico-ethnique constante. Il y a des Français qui viennent au Rwanda, qui viennent visiter le Rwanda et qui, visiblement, on n'a pas malheureusement toujours des comptes rendus de ce qu'ils disent, mais on sent que ça va dans le mauvais sens, qu'ils leur disent, mais regroupez-vous entre vous, vous les Hutus, résistez au FPR, résistez aux féodaux, résistez aux communistes. Mais encore une fois, il n'y avait pas de fatalité du génocide, et c'est en ça qu'il y a une responsabilité de la France. Ça aurait pu tourner autrement. C'était pas forcé qu'on aboutisse à ce bain de sang. Et si la France y avait vraiment mis les moyens, on aurait certainement pu éviter ça. Et c'est ça la grosse responsabilité fondamentale de notre pays. Je n'ai pas répondu à tout, mais je laisse Mehdi continuer.
Oui, donc moi je ne sais pas, effectivement, vous vous posiez la question. Donc pour ce qui est de 59, inversion de l'alliance du colonisateur au Rwanda, c'est-à-dire qu'on a vu dans ce peuple, qui n'était pas le seul d'ailleurs pour le colonisateur, dès l'arrivée des premiers missionnaires, pas oublier que c'est une colonisation de missionnaires le Rwanda, plus qu'une colonisation de soldats, une quasi-théocratie au moment de l'indépendance. Voilà, on plaque sur ces ethnies des schémas, et dans un premier temps on s'allie avec les Tutsis. Bernard Lugan, lui par exemple, il est toujours resté à cette alliance, c'est-à-dire qu'il considère que dans la vie, vous avez les peuples guerriers, ceux qui ont vocation à survivre, vous avez les peuples d'agriculteurs qui eux seront décimés, et que la vraie erreur qu'a commis l'Occident en Rwanda, c'est d'avoir inversé son alliance, et en 59 justement, d'être devenu le défenseur de ce qu'on appelle le peuple majoritaire, donc au nom de cette démocratie ethnique. Alors là, moi, j'ai deux choses à dire. Bon, la première chose, pourquoi on a inversé l'alliance ? On a inversé l'alliance, puisque comme on avait misé sur l'aristocratie Tutsi, et je veux dire par là au sens d'une partie de la population considérée comme Tutsi, son élite, si je peux dire, non pas une population prise en bloc, eh bien, comme dans tous les pays d'Afrique et dans tous les pays colonisés, il s'est trouvé un moment, à la fin des années 50, où des idées d'émancipation sont arrivées et que ça nécessitait. Alors là où c'est terrible, c'est qu'effectivement, on assiste depuis lors à cette espèce de... un des aspects du discours du génocide qui est « nous vous massacrons de manière préventive » parce que vous voulez notre destruction. Et ça, vous le retrouvez de manière constante, vous le retrouvez y compris après coup, dans le négationnisme, qui est une autre manière de perpétrer le génocide. Et ce massacre préventif, cette accusation en miroir, eh bien celle-là, effectivement, vous en trouvez, me semble-t-il, une stricte filiation dans tous les massacres de nature génocidaire, et jusqu'à ce qu'on pourrait appeler le grand génocide. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tout d'un coup, là, excusez-moi, je fais vraiment une parenthèse personnelle de quelque chose qui me traumatise un peu, je voulais le partager avec vous. Quand Jean-François a parlé des cartes d'identité ethnique, moi, excusez-moi de vous raconter un tout petit peu ma vie, j'ai été papa il y a quelques mois, et quelques semaines après la naissance de mon fils, je l'ai amené à la protection maternelle infantile, la PMI. Et la première question qu'on m'a posée, quelle est votre origine? Alors j'ai dit pardon. C'est une femme noire qui me posait la question, qui travaillait à la PMI. Oui, enfin, je veux dire par là, il se trouve que ma compagne est franco-algérienne, qu'il semblerait qu'on voit sur mon visage que peut-être, bien qu'étant né à Paris, ayant toujours demeuré, n'ayant qu'un passeport français, il semblerait que, je ne sais pas comment ils l'ont deviné, peut-être que j'avais... Alors là, quand même, j'ai tiqué. Alors j'ai tiqué, mais je me suis retenu parce qu'il se trouve que dans un même contexte, toujours, là c'était deux jours après la naissance, j'avais vu un toubib à la maternité qui m'avait posé à peu près la même question. Et quand je lui avais montré que je n'étais pas du tout content qu'il me la pose, il m'avait dit « Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour des histoires de En l'occurrence, avant de laisser sortir un bébé de maternité, on s'interroge sur la jaunisse et sur son taux de je ne sais plus quoi. Il semblerait que selon des familles d'appartenance, notamment dans le bassin méditerranéen, il y a plus de prédisposition à développer tel taux, machin. Bon, je me suis dit, écoute, ne va pas jouer l'ignare. Il y a déjà un médecin qui t'a dit que tu pouvais des fois être un peu parano. Mais quand même, j'ai posé la question. Alors là, il y a juste deux choses. Excusez-moi, je ne veux pas faire trop long cette histoire. La raison. Mais elle m'a dit d'un air quand même un peu embarrassé qui m'a très moyennement convaincu. Ben oui, vous savez, parce que quand les parents viennent d'un pays étranger, ça veut dire que l'enfant va être amené à voyager dans ce pays et donc les vaccins. Je lui ai dit, ah bon. Alors, je ne suis pas rentré dans un long développement, mais vous imaginez le gag. Vous imaginez le gag, vous, madame, je ne sais pas, mais je vous trouve bien blanche, vous avez bien raison. Est-ce que ça veut dire que enfants ou petits-enfants ne vont pas aller voyager dans un pays d'Afrique pour lequel il faudrait une vaccination et est-ce que parce que j'ai la peau basanée, ça veut dire que mon fils, la première chose qu'on va faire, c'est de l'envoyer au Sénégal ou en Mauritanie? Mais je viens à la vraie chose que je voulais préciser. J'en viens à la vraie chose que je voulais préciser. C'est que je me suis bien douté que cette question, avec plusieurs mots, c'était pas le mot qui était dans le bordereau. Alors je suis allé voir derrière son épaule. Et la première case, c'est ethnie. Dans les bordereaux d'inscription, dans les PMI. Ethnie. En 2006. Alors, on a arrêté d'aller dans cette PMI et je m'arrête là. Mais en tout cas, je peux vous dire que mon dossier, je compte bien en avoir la copie. Et continuer à me renseigner sur ces histoires. Pardonnez-moi parce qu'il nous reste l'opération Noroi et je ne sais pas par quel bout la prendre. Mais c'est pour vous montrer que certaines idées ont la vie dure et que tant qu'elles auront la vie dure, au fond, il faudra se dire que malgré l'étonnement et l'indignation, une partie des réponses, on les a sous les yeux. Quand on pense comme ça. Oui, ça, je m'en étais rendu compte un jour où j'étais allé aux protocoles médicaux et voilà. Où je m'étais rendu compte que j'étais pas de la bonne souche et que c'était pas possible.
Cela dit, ethnie sur un papier, c'est illégal.
Ouais.
Pardon ?
Humain, c'est une ethnie ?
Je n'ai pas de réponse, je vous laisse la penser. Alors, j'ai dit que c'était déjà une réponse.
Pour
l'opération de Noroi.
Avancez-vous, s'il vous plaît, parce que ça n'ira pas plus.
On ira peut-être tout le monde s'exprimer.
J'aurais une double question, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la littérature nauséabonde ou négationniste, etc. Donc la première chose, vous avez évoqué le nom de Bernard Lugan. J'ai lu, pas dans la presse française, bon, j'ai pas lu le livre, ça m'attire pas particulièrement, mais j'ai lu dans la presse allemande, en l'occurrence, que le livre serait préfacé par un certain Dominique de Villepin.
Non, vrai, ça c'est une erreur de l'article erreur. Que j'ai lu aussi.
L'auteur
est quelqu'un de très sérieux, mais là il a fait une confusion, il n'y a pas de préface de Villepin dans l'armée française au Rwanda, je crois pas qu'il y ait dans celui de Dominique.
C'est dommage,
on aurait bien aimé.
On aurait aimé.
Parce que ça m'aurait fait encore plus mal que le CPE.
Et deuxièmement, est-ce qu'il s'agit de même Bernard Lugan, j'ai entendu ce nom dans un autre contexte, à savoir dans un cadre d'activité antifasciste, etc. Il y aurait un prof à Lyon 3,
c'est lui,
un casque tropical sur la tête et un fouet dans la main pour est-ce qu'il a des accointances avec le Front National ou est-ce que
on le suit pas dehors.
Deuxième question, récemment dans un journal que je ne connais pas trop, mais jusqu'ici, qui me semblait un journal qui dénonce quand même les dictatures en Afrique, etc., le Gris-Gris International, il y avait, je crois, le dernier numéro, il y avait un truc sur le Rwanda, où il jouait un peu les équilibristes.
Oh oui,
Il disait grosso modo que oui, Péan et compagnie, ils exagèrent, mais Survie, ils exagèrent aussi. Ils sont sur une ligne de défense du régime contemporain au Rwanda, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui motive cela? Parce que ça, pour le coup, j'y avais rien compris.
Permets-moi, je m'en laisse une minute. Écoutez, le Gris-Gris, qui a, semble-t-il, arrêté sa parution, se donnait à voir, et apparemment c'est très marketing, comme un journal d'opposants africains en exil, très courageux, etc. Moi, pour ce que j'en sais, j'ai quand même eu quelques occasions de recueillir des informations, ça n'est rien d'autre qu'une publication faite depuis Paris par les mêmes journalistes qui rédigent les articles sur l'Afrique dans vos grands quotidiens, grands hebdo, et qui, sous pseudonyme, font part aux lecteurs du Gris-Gris du même type d'informations qu'on peut lire quand on voit des articles par des types qui se baladent le matin au Quai d'Orsay, l'après-midi à la caserne Mortier, et qui dînent le soir avec un type de l'Élysée. Donc, pour moi, le Gris-Gris n'est pas un journal sérieux. Son traitement du Rwanda est abominable Et je suis étonné au fond que ce journal est coulé par une espèce de posture vengeresse. Oui, alors accessoirement, il semblerait que leur date de publication ait rejoint Omar Bongo avec au passage un coup de langue favorable à Jean-Marie Le Pen. C'est sûr que ça fait un peu tâche, mais personnellement, j'ai pas entendu cette histoire d'interview de Jean-Marie Le Pen. J'ai vu des choses bien plus choquantes. Je ne sais pas ce que donne cette interview de Le Pen, mais ce que j'ai lu sur le Rwanda, vous avez entièrement raison de le souligner, c'est absolument abominable. J'ai honte pour les gens, et j'en connais certains qui ont collaborer à ce journal. Enfin bon, là vraiment le gris-gris, je crois qu'il faut juste pas se tromper sur l'étiquette. Pour moi, le gris-gris, c'est Africain International, mais remis à la sauce marketing des opposants africains, c'est pour moi une imposture. Alors du coup, vous avez dit plein de choses intéressantes, j'étais entièrement d'accord avec vous, mais j'ai oublié ce qu'il y avait juste avant le gris-gris. Oui, sur Lugan. Bon, Lugan, c'est vrai que le personnage, il a quand même une certaine complexité, et je vous ai dit, j'ai fait une allusion rapide tout à l'heure. Bon, nous, en 94-15, je travaillais dans un journal qui s'appelait Maintenant, on faisait dans chaque numéro des articles sur le rôle de la France au Rwanda. Un jour, on a reçu dans notre boîte aux lettres une revue qui s'appelle L'Afrique réelle, qui nous a été envoyée généreusement avec un feuillet nous incitant à nous abonner par Bernard Lugan, qui avait repéré, l'extrême droite, très bien informé et qui disent beaucoup, qui se disait, au fond, on n'a pas des positions si lointaines. C'est vrai que, à part le racisme viscéral de Lugan, sur l'analyse politique des implications françaises au Rwanda, il a fait un dossier. Octobre-novembre 95, un truc passionnant, hein. On dirait du goûteux, hein, si tu me permets, Jean-Paul, hein, indépendamment du darwinisme. Ah non, mais il y va, non, Jean-Paul, excuse-moi, c'était une boutade. Non, mais je veux dire que c'est un traitement incroyable, une attaque radicale, frontale, en règle. Mitterrand, le rôle de Mitterrand, Turquoise, c'est une opération de camouflage, on va se porter au secours des tueurs, etc., etc. Et moi, Lugan, je l'ai longtemps vu comme ce type qui, au fond, avait... Alors, sur le Rwanda, quand même une vision assez étonnante, parce que pas du tout dans l'axe la démocratie majoritaire ou tout, au contraire, louant une aristocratie tout de suite qu'on aurait dû rester laissé au pouvoir, en même temps avec une critique radicale de l'action de la France qui était basée sur les mêmes éléments que nous-mêmes on constatait, c'est-à-dire qu'il n'était pas allé inventer des trucs. Bon, et puis, Lugan, moi, j'ai un peu... c'est vrai que moi, j'avais en tête les raisons pour lesquelles on le connaît, c'est-à-dire en gros, il est lié, je pense, au mouvement de l'université de Lyon 3, qui sont plutôt au sein de l'extrême droite, cette frange païenne, institut d'études européennes, là, ou ariennes, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, là. Donc une extrême droite, une frange de l'extrême droite très active dans les milieux intellectuels, etc. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Je ne sais pas comment il s'y est pris, mais Lugan, il est devenu le porte-parole officiel de l'armée française. Et moi, j'ai lu tardivement son dernier bouquin, François Mitterrand, l'armée française et le Rwanda. Franchement, moi, je ne le mets pas dans la même catégorie que Péan pour une simple raison. C'est que, étant porte-parole officielle, assumée, ce que n'assume pas Péan, qui ne dit pas si c'est M. Védrine ou M. Bruno Dolé qui tenait son stylo, ou M. Queneau, ou les trois ensemble qui se relayaient, lui, Lugan, au fond, il n'a même pas besoin de le dire. Il suffit de regarder son CV, je vous ai cité, école de guerre, IHEDN, il y a peut-être encore un ou deux trucs, institutions militaires que j'oublie. Et alors c'est vrai que le coup du casque colonial, dont comme vous j'ai lu qu'il intervenait dans certains de ses cours avec le casque colonial, mais là je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi Lugan m'intéresse parce qu'on trouve dans son livre la réponse argumentée avec des éléments complètement inédits, c'est-à-dire que Lugan il a eu accès à tous les militaires auxquels personne d'autre ne peut avoir accès parce qu'il faut qu'ils sachent qu'ils sont avec un ami et quelqu'un avec qui ils travaillent en confiance. Donc c'est un moins négationnisme, je ne vais pas rentrer dans les nuances du négationnisme, parce que globalement, c'est quand même ça consiste à dire ce qui s'est passé ne s'est pas passé. Mais c'est quand même maintenant un personnage beaucoup plus institutionnel, qui a acquis une respectabilité sans qu'on s'en soit même rendu compte. Et moi, Lugan, aujourd'hui, je le prends pour ce qu'il écrit, c'est-à-dire le représentant officiel de la parole de l'armée française pour dire tout ce qu'on a fait, c'était bien en Rwanda, mais vraiment d'un strict point de vue militaire. Bon, et quand même aussi, il englobe le point de vue politique qui souvent préfigure l'action militaire.
Il y avait deux personnes, on peut peut-être enchaîner les questions comme ça.
C'était juste pour faire une page culturelle. En ce moment, à l'Espace Confluence, il y a une pièce de théâtre qui se joue, une saison de Machette, qui est adaptée du livre de Jean Axel. Voilà, Oui. L'information.
Le problème, c'est que vous avez accepté M. Smith dans un des débats.
Oui, mais justement, j'allais y venir. Justement, M. Smith vient ce week-end. Je pense que ce serait intéressant
oui,
d'aller
mais
pour porter
Mme la contradiction. Par exemple, a refusé d'aller à votre
ben,
séance parce que vous avez.
Ah non, mais je ne travaille pas là-bas. Hein, non, je travaille
non,
pas
non, mais bon,
moi, je proposais de faire une action d'y aller ce week-end quand il intervient. Pour justement.
Pas le week-end dernier, non
non, c'était.
C'était pas le 18 mars, Smith.
Il est passé.
Il est passé.
Je crois qu'il est passé, ouais. Je crois qu'il est passé.
Il est déjà passé. Mme Couture a refusé d'aller, justement, des commentaires.
Alors, si je suis bien informé, pendant l'extermination des Tutsis au Rwanda, il y a aussi des Burundais qui auraient participé à cette extermination des Tutsis au Rwanda. Donc des Burundais, des citoyens burundais, qui auraient participé à cette extermination des Tutsis au Rwanda. Par la suite, bon, vous connaissez l'histoire du Burundi ces dernières années, il y a eu des rébellions qui travaillaient main dans la main avec les anciens miliciens, soldats rwandais. Et ces mouvements, vous les connaissez, un de ces mouvements vient de prendre le pouvoir au Burundi. Alors maintenant, je voudrais vous demander aux conférenciers d'aborder quelque chose qui me semble n'est pas fait ce soir, alors que probablement quelque chose d'absolument décisif ce jour-là passe par là, c'est-à-dire quelles sont les relations, par exemple, entre le pouvoir actuel au Burundi et au Rwanda, et puis est-ce que ce problème-là, cette extermination des Tutsis dans cette région qui n'est pas quelque chose de récent, hein, même si on a voulu le taire, le minimiser depuis 59, 61, 62, 72, 13, etc. Bon, c'était ça, continue en 94. 13, au Burundi, vous savez bien qu'un jour, je suis sûr que les historiens constateront, reconnaîtront qu'il y a aussi un génocide aussi au Burundi. Mais pour le moment, ce n'est pas fait. Je ne sais pas pour quelle raison. Et pourtant, Jean-Pierre Chrétien, par exemple, tout à l'heure, un des conférenciers a parlé du nazisme tropical, dans son papier de libération, je crois, à l'époque, où il y avait sorti son nazisme tropical. Jean-Pierre Chrétien faisait un parallèle point à point entre l'extermination des Tutsis en 93 au Burundi et la Shoah. Alors, voilà, donc, je voudrais vous demander si vous ne pouvez pas éclairer et aussi peut-être envisager l'avenir des Tutsis dans cette région en tenant compte du Burundi et peut-être du Congo démocratique.
Moi, pour ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire que je suis. Enfin, voilà, je suis pas en mesure de répondre, si j'ose dire. Je crois que c'est plutôt que la salle est aussi un intervenant et que monsieur vous apportez un éclairage complémentaire ou, si vous le souhaitez, des informations complémentaires. Enfin, en tout cas, pour la même raison que j'ai invoquée un peu plus tôt, je vous avoue, monsieur, là, que je ne peux rien apporter de déterminant sur ces points à la salle.
Non, je crois qu'en plus, bon, il faudrait organiser un autre débat sur le Burundi, peut-être avec des gens plus compétents que nous pour en parler, y compris les Burundais. Mais non, je crois vraiment que c'est un autre débat. Ça paraît difficile qu'on parle de ça et qu'on ouvre un débat là-dessus. Je voudrais revenir juste un instant sur cette question de l'équilibrisme de Grégory International. Vous savez, dans les années 30, quand on a commencé à persécuter les Juifs en Allemagne, il y a des bons Français qui ont dit que vraiment Hitler exagérait peut-être, mais il faut dire que les Juifs avaient aussi exagéré. Hein, on disait ça textuellement dans certains journaux en France, que les Juifs avaient peut-être cherché les malheurs qui leur sont arrivés. Ça permettait de penser que les malheurs ne dépasseraient pas les frontières de l'Allemagne. On sait ce qui est devenu. Un deuxième mot sur Grégory International. Vous savez, Internet, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, il y a un certain nombre de révisionnistes qui se sont installés sur Internet. Ils ont compris comment ça marche, ils ont essayé de faire en sorte que quand on tape leur nom, on trouve des milliers de citations sur Google, etc. Ils essayent d'occuper un terrain qui est un terrain vraiment délétère, parce qu'il n'y a pas de règles, parce que le révisionnisme, le racisme, etc. sont pas sanctionnés sur Internet. Grégory International n'est pas encore le pire, parce qu'il y a encore pire que ça sur Internet. C'est tout à fait dommage, mais on n'y peut rien là. Sincèrement, on ne peut rien faire.
Grégory est un journal papier, hein,
ouais.
Qui a un site,
oui,
internet.
Qui a un site internet, mais évidemment, il a beaucoup plus d'audience par internet qu'il en avait par le papier. Donc maintenant, c'est fini. C'est une affaire passée. Vous vouliez qu'on dise un mot sur Norrois?
J'ai peur que ce soit un peu difficile parce que, bon, Norrois, c'est pour revenir sur l'intervention française au Rwanda sur une période de plusieurs années et avec tous les abus dont on a déjà parlé. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus.
Enfin, le minimum qu'on puisse dire, vous le sous-entendiez vous-même dans votre question, pour ce que je peux moi en juger, oui, incontestablement, la présence militaire française sur place change considérablement la donne de l'opposition politico-militaire. Ça, c'est une évidence. La question éventuelle qui reste à éclairer, c'est de pouvoir documenter très précisément quelle unité et quel régiment sont directement montés au front, qui était à Rwenguéri à telle date, qui était à Byumba à telle date, etc., etc. Mais d'ores et déjà, eux-mêmes s'en sont si peu caché qu'il le nie de manière circonstancielle, mais que tous les éléments sont là qui permettent de savoir que la France s'est trouvée un acteur, oui, qui a considérablement influencé le cours des événements au Rwanda, et surtout qui a conforté le régime Habyarimana dans le sentiment qu'il était protégé, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Là, je vous renvoie un document qu'on vient de publier dans un dossier de la revue Goliath et que Survie a photocopié, qui est sur la table. Vous verrez un document qui date de février 93 et qui est signé du ministre de la Défense de l'époque, Pierre Joxe. Bon, moi, personnellement, c'était la première fois que je voyais qu'une personne au sein de l'appareil d'État français, qui plus est avec rang de ministre de la Défense, et qui plus est Pierre Joxe, préconisait au président Mitterrand une autre politique, et il lui disait, je vous le fais en résumé, mais vous pouvez lire ça avant de partir, hein, c'est très court, c'est 2 pages, Habyarimana, ce n'est certainement pas avec la manière dont on soutient militairement qu'on peut peser pour le faire changer de politique, ce qui est l'alibi de la France. Ah, on était là, mais attention, hein, c'était nous, c'était les pressions tous les jours. Ça, vous pouvez être sûr qu'avec l'ambassadeur Georges Marre, ça, le père Habyarimana, il ne devait pas endormir de la nuit de savoir les pressions qu'il allait avoir chaque semaine par la France. Donc, en l'occurrence, Joxe se dit, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il dit, c'est en retirant notre soutien et en le conditionnant réellement. On envoie des militaires, si tant est que vous nous ayez démontré que vous avez infléchi votre politique. Il préconise la politique inverse. Et qu'est-ce qu'il fait? On est en février 93, la droite va revenir au pouvoir, et tout le monde le sait, on est dans les derniers moments où la gauche gère en solo son dossier, et il dit, bon, je sais que Marcel Debarge, qui est ministre de la Coopération, va effectuer un voyage au Rwanda ces jours-ci, Rwanda ou Uganda, pour parler de ces questions d'un point de vue central. Il dit, bah, j'aimerais bien au moins que l'analyse que je fais, il puisse la porter aussi là-bas. Vous parlez. Non seulement c'est pas ça qui s'est passé, mais c'est l'inverse, parce que vous verrez le deuxième document qui est en vis-à-vis, c'est que non seulement Debarge, Marcel Debarge, il n'y va pas du tout pour envisager cette question-là, parce qu'il n'en a pas du tout reçu les instructions de l'Élysée, mais lui, il y va pour autre chose, lui, il y va pour galvaniser le Hutu Power. Et il arrive sur place, et c'est acté dans une note, un compte-rendu de voyage, mais ça, on le savait, je crois, déjà en substance depuis la mission qu'il laisse, et bien, il va voir les partis rwandais, et il dit, attendez là, les partis, les mouvements d'opposition, c'est-à-dire cette opposition qui n'est pas le FPR et qui n'est pas l'État Habyarimana, il y a un seul clivage dans ce pays. Ce clivage, il est ethnique, il est racial. Donc, vous allez me faire plaisir, les Hutus, je veux les voir tous ensemble avec les Hutus, et donc du côté d'Habyarimana, et en face, le FPR, il doit être tout seul. Sinon, vous allez vous faire dévorer par lui. Ça, c'est en toutes lettres. Voilà. Donc, pour vous donner une idée de cette duplicité de la France qui dit, oh là là, nous on a voulu arrancher le partage du pouvoir, oh là là, nous c'est, on a aidé Habyarimana, c'était pour l'aider à changer. Donc, tout ça est une fumisterie, complexe certes, et là c'est pas un pur mensonge avec la version A et la version B, vous avez des nuances de gris là aussi. Bon, enfin voilà, là c'est une sorte de résumé. Et parallèlement, pour terminer sur Norrois, bah, pendant qu'il y avait cette aide militaire directe, eh bien il y avait aussi, et ça reste encore à éclairer complètement, le rôle que jouaient les unités de formation, notamment les DAMI, ce fameux détachement d'assistance militaire à l'instruction, dont on se rend compte aujourd'hui que possiblement il a formé pas seulement l'armée rwandaise, mais l'appareil du génocide, et notamment les miliciens, ce qui pose un autre type de problème.
On va prendre 2-3 dernières questions.
Puisqu'on a parlé de Villepin tout à l'heure, qui est un premier ministre, le bouquin justement de Saint-Exupéry s'adresse à lui. Et bon, il l'emmène là-bas, et à la fin, il dévoile le truc qui est que, en fait, Juppé, Balladur était un peu moins extrémiste de Mitterrand, et qu'en particulier, Juppé voulait contacter le FPR. Et il dit que Villepin a bloqué le papier qui aurait fait que s'il y avait un contact, on aurait peut-être pu arrêter en tout cas, essayer de faire que le génocide aurait un peu lieu. Qu'est-ce que sont les informations là-dessus par rapport aux nuances, hein? C'est des nuances, puisqu'ils étaient tous au complice, je suis d'accord, mais par rapport à le gentil par rapport à Sarkozy maintenant, est-ce qu'il a eu un rôle très néfaste par rapport à une droite qui était moins extrême droite que Mitterrand, je ne sais pas.
Juste un mot pour dire que, bon, ce qui semble à peu près clair, c'est que Balladur a freiné l'opération turquoise pendant un certain temps, il a essayé de la limiter, il ne partageait pas les ambitions de Mitterrand là-dessus, il s'est quand même un peu laissé faire hein, sur ce dossier-là, donc il y a sûrement des nuances dans l'imbrication des acteurs politiques, mais enfin ce ne sont que des nuances, il n'y a pas vraiment des fractures, hein, où quelqu'un dirait « ça ne peut pas être comme ça ». Et puis quand on les a vus à la mission d'information parlementaire, c'était consternant. Léotard, c'était effrayant. Les propos de bistrot qui tenaient, quoi, pour expliquer le Rwanda. On a l'impression qu'il a appris ça au café le matin en discutant avec des anciens de la DGSE qui étaient déjà au quatrième âge. Il y en a d'autres aussi, parce que si on veut parler des acteurs, il y a d'autres acteurs que les Français. Par exemple, il y a Boutros-Ghali, on n'en parle pas beaucoup. Mais Boutros-Ghali, il était ministre des Affaires étrangères d'Égypte, et c'est lui qui a négocié les premières fournitures d'armes au Rwanda avant qu'il soit secrétaire général de l'ONU. Et vous savez que comme secrétaire général de l'ONU, il a énormément aidé la France, il a fait avancer les dossiers français, il a fait avancer les hauts fonctionnaires français, etc. C'est lui qui est quand même aussi responsable de la nomination catastrophique de Roger Bobo comme son représentant spécial au Rwanda. Alors, on a parlé de Debarge, c'est vrai que Debarge a un rôle calamiteux dans... la radicalisation d'une opposition ethnique au Rwanda et notamment de la naissance des mouvements power au sein des partis. Mais Roger Bobo, il a fait à peu près la même chose parce que lui aussi, là, on sait qu'il poussait Habyarimana dans le mauvais sens en permanence. Et il a beau aujourd'hui protester de sa bonne foi en crachant sur Dallaire, enfin, on sait que c'était vraiment un très très mauvais geste. Quant à, alors lui, il n'a pas été tellement récompensé par tout ça, mais Boutros-Ghali, il a quand même bien été, puisque en quittant l'ONU, il s'est retrouvé président de l'agence de la francophonie, c'était encore voiture, chauffeur, salaire, résidence, etc. Donc, lui au moins, il a touché les 30 deniers de Judas.
Je voudrais savoir par qui est financé le FPR, et aussi, a-t-on accès à la liste des officiers qui suivent le CID, l'école de guerre.
Je sais que c'est le CID.
Le Collège interarmé de défense.
Ah oui.
J'avoue que là je suis perplexe. Première, qui finance le FPR en tant que parti politique?
Non, comment il est financé?
En tant que mouvement rebelle.
À l'époque, en tant que mouvement rebelle.
Bah, on le sait, hein, ça. On sait très bien comment il était financé. Il y avait des cotisations, il y avait des bons pour 100 dollars et la diaspora Tutsi, qui représentait quand même environ 600 000 personnes en 94, s'est vraiment mis aux quatre veines pour aider le FPR. Bon, ils ont peut-être trouvé d'autres moyens. On accusait aussi certains Tutsi de Rwanda, riches Tutsi, voire milliardaires Tutsi, de contribuer à financer le FPR. C'est très vraisemblable. C'est comme tous les mouvements rebelles, hein, on se finance... en faisant appel à des cotisations ou en saisissant aussi sur le terrain tout ce qu'on peut, etc. Il n'y a pas, à notre connaissance, il n'y a pas un parti ou un gouvernement extérieur qui aurait apporté une contribution essentielle. Bon, visiblement, l'Ouganda a quand même un petit peu aidé. Mais c'est un problème qu'on peut se poser sur tous les mouvements rebelles, y compris ceux au Burundi. Hein. Comment est-ce qu'ils se financent? Ben, ils réussissent quand même à acheter des armes et des munitions à bas prix parce que il faut que vous le sachiez, sur le marché international, ça vaut rien. Surtout à cette époque-là, au moment de l'effondrement de l'ex-empire soviétique, les stocks d'armes étaient absolument colossaux et une Kalachnikov sur le marché international, ça s'achetait pour une petite poignée de dollars. Ça coûtait plus cher de la transporter que de l'acheter et les munitions coûtaient plus cher que l'arme. Mais une Kalachnikov, ça coûtait 20 ou 25 dollars et à Kigali, on trouvait sur le marché des grenades, par exemple, pour... l'équivalent du prix d'un kilo ou deux kilos de café. Donc c'était vraiment à la portée de toutes les bourses. Il y a eu beaucoup d'attentats d'ailleurs à la grenade qui était également des règlements de compte entre personnes à cette époque-là parce que c'était facile de jeter une grenade dans la maison du voisin. Donc ça fait partie un petit peu malheureusement de cette espèce de chaos général où les armes circulent très très facilement et les stocks sont tellement énormes que c'est très facile de financer des rébellions. Moi j'avoue que j'avais interviewé à l'époque le président du Burundi qui m'avait dit qu'à sa connaissance il circulait, ça c'était en 96 ou 97, Il circulait environ 350 000 armes du type Kalachnikov dans tout le secteur, c'est-à-dire Burundi, Rwanda et Congo.
Et alors pour ce qui est de la fréquentation du collège interarmées de défense sur cette période-là, je vais vous dire, moi j'ai pas en tête d'éléments, c'est-à-dire qu'il est plus que vraisemblable qu'une bonne partie du gratin ou de un effectif conséquent des phares, des forces armées rwandaises ont pu recevoir des formations en France. Mais là, je vais vous dire, bon, indépendamment du fait qu'il y a plein de variables à étudier et qu'il vous en manque toujours certaines sur lesquelles vous n'êtes pas allé, je ne peux pas affirmer aujourd'hui qu'on aurait affaire à des portes closes si on voulait se poser cette question. Si par exemple on prenait la liste des principaux officiers, sous-officiers impliqués dans le génocide et qu'on allait essayer de la croiser avec la liste des stagiaires pendant les deux décennies précédentes, je ne suis pas sûr, je ne sais pas quelle serait l'institution qu'il faudrait aller voir au sein de l'armée française, je ne suis pas sûr que, en tout cas pour moi-même, j'aurais les caractéristiques ou le profil requis pour avoir accès à ce type de données. En revanche, depuis 12 ans, qu'est-ce qu'on aura entendu que Paul Kagame a fait 2 stages de formation aux États-Unis? Ça, on vous l'a dit, on vous l'a redit, on vous l'a tartiné. Bon, ce qui serait intéressant aujourd'hui, effectivement, c'est de savoir, au-delà de Théonès Bagosora, voilà, qui sont les Français. On a des raisons de penser, mais pas seulement parce que c'est le Rwanda, parce qu'il suffit de voir comment ça se passe avec les pays africains du précaré français, qu'a priori c'est une fréquentation extrêmement régulière, extrêmement conséquente, qui a de très fortes chances que un petit peu toutes les unités de l'armée rwandaise de l'époque aient été concernées par des formations en France. Voilà, les Français, pour le coup, se montrent discrets sur ce point.
Je peux juste vous donner quelques éléments à ce sujet en disant qu'il ne faut pas être trop simpliste, il ne faut pas croire qu'il y a des sales militaires français qui enseignent la guerre révolutionnaire à l'école de Caire à Kigali, ou à l'école des sous-officiers de Boutaré, parce qu'il se trouve que ce n'était pas des Français, c'était des Belges, ceux qui enseignaient la guerre révolutionnaire à Kigali, parce que cette théorie était vraiment enseignée. Moi, j'ai rencontré des officiers rwandais qui l'ont appris, ils m'ont donné le nom de leur professeur, c'était des Belges, parce que traditionnellement, c'était des Belges qui envoyaient des formateurs à l'école de guerre à Kigali. Je ne sais pas comment ça se passait à l'école des sous-officiers, mais je pense que là, on n'était pas à ce niveau de formation idéologique. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des formations en France, et là on n'en sait pas, on sait pas grand chose, on pourrait peut-être enquêter là-dessus, il y a peut-être moyen.
Si vous y travaillez.
Bon, dernière question.
Sauf si une autre personne, quelqu'un du fond veut parler, parce que c'est vrai que
j'ai. Bon, là, je sais pas, je vois aucune main qui se lève, donc allez-y. Allez-y, puis on terminera.
Dernière question en double. Si vous permettez, est-il vrai que des survivants rwandais ont engagé des procédures judiciaires en France sur la base de la complicité française dans le génocide? Et si oui, où en sont les plaintes? Et est-ce que dans ce génocide, on sait qu'on a massacré des Tutsis et des Hutus qui étaient contre le génocide aussi? Est-ce qu'il n'y avait pas finalement aussi un règlement, une liquidation d'une rivalité entre Hutu du Nord et Hutu du Sud, c'est-à-dire anciens partisans de Kayibanda et partisans de Habyarimana?
Le problème de vos questions, c'est tout à fait passionnant. Le problème, c'est qu'une bonne partie sont vertigineuses parce qu'elles impliquent quasiment des cours magistraux. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de faire un très rapide rappel sur le premier point. Donc, on l'a dit à un moment donné, vous ne deviez pas encore être arrivé. Début 2005, 6 plaintes sont déposées devant le tribunal aux armées de Paris, émanant de rescapés du génocide, accusant des militaires français non désignés, non nommés, puisque. Bon, le nom, ils n'ont pas laissé leur carte de visite en l'occurrence, donc des plaintes contre X visant des militaires français, et les infractions sont notamment la complicité de génocide. Là-dessus, je vous renvoie à un moteur de recherche internet, tout simplement parce que voilà, le dernier article, notamment vous y trouverez en tête des hits, l'article de Libération d'hier qui fait un rappel assez complet de où on en est. Et puis l'article de Patrick de Saint-Exupéry dans le Figaro, ça devait être 8 jours plus tôt, qui lui aussi revient en détail sur Bicécéro, l'épisode que j'ai mentionné, et mentionne aussi l'état des plaintes. Mais ça, franchement, il y a aujourd'hui des articles gratuits en ligne, vous les avez par Google, et vous saurez très précisément où en sont ces plaintes. Ce dont il faut être conscient, c'est qu'il n'y a aucune garantie pour cette information judiciaire, comme pour toute autre, qu'elle aboutira, qu'on les identifie, on arrive à recueillir, comme je l'exposais tout à l'heure, suffisamment de charges pour envoyer devant une juridiction. Ce qui est certain aussi, c'est que le parquet joue contre cette information judiciaire. Le parquet du tribunal aux armées, manifestement, interjette appel dès qu'il le peut de la moindre décision des juges. Bon, alors après, pour ce qui est du clivage, je ne peux que vous confirmer qu'effectivement, qu'il s'agisse de la première par rapport à la deuxième république, qu'il s'agisse des raisons pour lesquelles un certain nombre de Hutus ont été eux aussi visés à côté du génocide et des crimes contre l'humanité ont été commis, il y avait effectivement, on parle toujours du clivage ethnique, mais il y avait bien évidemment d'autres clivages au Rwanda. Là, le problème, c'est que c'est vrai qu'en clôture du débat, ça nous amène à vraiment ouvrir quelque chose d'assez large pour répondre convenablement. Et là, j'avoue que je préfère vous renvoyer à une bibliographie sélective des questions qui seraient pour vous les plus centrales, celles dont vous voulez faire le tour. Et globalement, je crois que les organisateurs de cette soirée prendront toujours le temps, justement, en fonction des questions que vous vous posez, des thèmes que vous voulez éclaircir, de vous envoyer vers la juste référence bibliographique. Sur ce point d'ailleurs, et puisqu'on conclut, moi j'en profite juste pour signaler, donc, là il y a un article qui a été photocopié par Survie, me concernant d'un article et de quelques documents pas inintéressants qui viennent d'être publiés dans Goliath. Je vous invite aussi à passer par les organisateurs de la soirée pour ceux qui souhaitent obtenir le fichier PDF d'un dossier d'une quarantaine de pages que j'avais coordonné l'an passé pour la même revue Goliath, dans laquelle il y a des contributions passionnantes de Jean-Paul Gouteux, qui a pris la parole tout à l'heure, qui revient notamment sur le rôle de l'Église, une contribution très inédite, adaptée du mémoire dont je parlais tout à l'heure d'Olivier Timonier, qui est un début d'éclairage sur le rôle de la France au Rwanda entre 70 et 80, ce qui est quelque chose de très essentiel. J'ai moi-même dans ce dossier publié l'interview d'un des avocats partie civile dans le dossier Bruguière et écrit à la suite de cette interview. Enfin, j'ai essayé d'analyser en quoi l'attentat était un enjeu négationniste. Donc, ce dossier, vous pouvez l'avoir gratuitement. Le but, enfin, si on l'a fait, c'est tous bénévolement et pour qu'il circule. Goliath, c'est pas une revue avec une forte diffusion. Donc, n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, vous mentionnez votre adresse email. Si Survie n'a plus le PDF, je le renvoie demain. Et puis, vous centralisez les envois vers les gens que ça peut intéresser. Pour ce qui est de Jean-François, je te laisse éventuellement mentionner livre ou article ou autre apparaître ou déjà paru.
Alors, ce qu'on peut penser, c'est que pour cet anniversaire du génocide, du 6 avril prochain, on va voir les révisionnistes se manifester, parce qu'ils ont déjà troublé une réunion le 16 mars de l'association des étudiants juifs laïcs d'une façon assez véhémente, en menaçant de mort des Tutsis qui étaient présents dans la salle. Parce que quand on soulève le couvercle, on sait ce qui se passe derrière. Il y a des tas de gens dont ça lève des inhibitions et ils sont encore plus violents. Ils sont d'autant plus violents que visiblement la partie est perdue pour eux. Parce que ça ne marche pas. Dire qu'il n'y a pas eu de préparation du génocide, ça ne marche pas. Dire que c'est l'attentat contre l'avion qui a déclenché le génocide, ça ne marche pas vraiment. En tout cas pas dans le sens où ils l'entendent. On peut penser que comme d'habitude, autour du 6 avril, il y aura des journalistes qui vont publier de nouvelles révélations. C'est très vraisemblable, et puis peut-être que d'autres livres paraîtront dont je ne connais pas encore ni les auteurs ni les éditeurs, comme celui de Crevelier sur la justice du TPIR. Les choses évoluent dans le bon sens, hein. Moi, c'est plutôt un message de confiance que je donnerais. C'est vrai qu'il y a ces combats d'arrière-garde qui sont menés par des tenants des vieilles idées comme Péan. Il ne faut pas trop en tenir compte. On n'est plus aujourd'hui en train d'argumenter avec des gens comme Péan, parce que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ces racistes de bas étage, il faut plutôt les mépriser, les laisser au bord du chemin. Notre avancée à nous, c'est de continuer. Et je le disais déjà l'an dernier, je le répète cette année, vous avez tous des amis qui connaissent des gens qui ont été militaires au Rwanda, c'est forcé. Parce qu'il y a eu tellement de militaires français qui ont été au Rwanda, je vous rappelle qu'on restait seulement 4 mois au Rwanda en général, et donc il y a eu un va-et-vient, un turnover très très important de militaires. Aidez-nous à trouver des témoignages. Si vous creusez un petit peu, peut-être même si vous êtes très antimilitariste, vous avez beau chercher, vous avez trouvé dans votre famille des gens qui le sont moins et qui ont des relations, vous avez forcément trouvé ces témoins. C'est ça le plus important. Il ne faut pas considérer ces militaires comme des adversaires. L'armée, ce n'est pas un bloc. L'armée, elle est fracturée sur l'affaire du Rwanda. Il y a des gens qui ont envie de parler. Et vous voyez ce livre-là, Les blessures incurables du Rwanda, qui est paru il y a un mois et demi. Celui-ci de Hogard, qui est moins brillant, enfin, qui est assez catastrophique, qui est paru, lui, au mois de novembre dernier. C'est un début, mais on voit bien que l'instruction qui est menée actuellement sur cette complicité de génocide, ça les titille, les militaires français, ils ont envie de parler, les pires et les meilleurs. Alors essayons de faire parler les meilleurs, qui nous en disent un petit peu plus. Il y en a déjà qui ont parlé, mais ça n'est pas fini. C'est clair que l'abcès, il est ouvert, il faut appuyer dessus, il faut que ça suture jusqu'à ce qu'on sache tout. Voilà ce que moi je voulais vous dire.
Merci.
Comment ?
Oui, demain, il y a une projection d'un film sur les Gatchatchins, donc les tribunaux traditionnels qui jugent certains second couteau du génocide.
Non.
Avec la réalisatrice qui sera là, non, avec Asunta Mikrandiranda, je ne sais pas si un mec qui sera avec la réalisatrice pour nous. Et vendredi prochain, enfin vendredi 31,
et on en veut bien,
tout un débat sur la justice, l'impunité.
Un remerciement dans le prochain livre, je vous
souhaite. Au même endroit.
Je suis tapé 30 semaines avec des malades qui nous
fait du regard. Ah oui. Pourtant, ce type-là, c'est la. Je suis pas